Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu si vous voulez sur ce thème. Quand c'est marqué dans Michelet, qui est Charim, Ishrinu Aretz, les gens droits, ils occuperont la terre, si on traduit comme ça. Ou Tmimim, il va trouver. Par contre, les gens Tmimim, les gens intègres, eux, ils se maintiendront sur la terre. Il y a une différence entre le fait d'occuper un endroit et le fait de rester sur un endroit. Quelqu'un, il peut être de passage quelque part, ou est-ce que quelqu'un, il peut être solidement ancré dans un endroit. Une fois, on parle de Yesharim, de gens droits, une fois, on parle de Tmimim. Après, c'est marqué dans le pasuk Reshaim, mais Eretz Ikaritu. Par contre, les Reshaim de la terre, ils seront exclus, ils seront déracinés. Ou Bogdim, ils seront Mimenu, et les Bogdim, les rebelles, ils seront arrachés de la terre. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle deux fois de Tmimim et de Yesharim, et des fois on parle de Bogdim, Bogdim des gens qui sont rebelles, des gens qui sont Yesharim, pourquoi est-ce que les deux ils s'opposent et comment ça fonctionne? Alors pour comprendre cette notion-là, il faut bien accepter qu'à chaque fois qu'on est en face d'une situation, selon le regard qu'on a sur la situation, selon l'approche qu'on a sur la situation elle est différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éteindre les portables. Ça veut dire que la réalité qui est en face de nous, elle a un défaut majeur et une qualité majeure, c'est qu'elle nous ressemble. Alors j'ai trouvé cet exemple-là la semaine dernière à Tel Aviv. Vous prenez une bouteille d'eau. Sur la bouteille d'eau, il y a marqué 1,5 litre. Donc il y a combien dedans? 1,5 litre. Vous prenez une bassine vide. Si vous la versez dans la bassine, combien il y a dans la bassine? 1,5 litre. Combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. Jusque là, ça va? Maintenant, si vous reprenez l'eau qui est dans la bassine et vous la remettez dans la bouteille, combien il y a maintenant dedans? 1,5 litre à peu près, un petit peu moins, des petites gouttes. Ouais. Maintenant, la bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Maintenant, ce qu'il y a dans la bouteille, c'est ce qui te manque à toi. Ce qu'il y a dans la bassine, c'est ce qui te manque à toi. Ta vie, elle est exactement comme toi. Maintenant, quelqu'un, il veut connaître. Il veut savoir qui il est. Il veut savoir son contenant. Alors, il peut regarder combien il est plein. Il peut regarder combien il est vide. Et ses manques, ils vont le définir. Maintenant, celui qui te propose les manques, quand Kadosh Boku, il te propose une épreuve, ou il te propose une réalité, ou il te propose un bonheur, ce bonheur, il te ressemble. Alors, il a cette forme, il a cette contenance. Après, c'est le degré de maturité avec lequel tu l'abordes. Alors, des fois, la Torah, elle nous parle d'aborder la réalité avec Tmimut, et des fois, la Torah, elle nous parle d'aborder la réalité avec Yashrut. Maintenant, Yashrut, ça vient du mot Yashar, c'est la droiture. La Tmimut, on a traduit comme ça l'intégrité, il va falloir essayer de bien bien la comprendre, parce que ça change complètement l'approche qu'on peut avoir des choses. Maintenant, étant donné qu'un homme, c'est marqué « Kol agadol michavero itzro gadol imeno », tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzirah, il est plus grand que lui. Et le Yetzirah, c'est celui qui nous propose. Maintenant, ça peut être un agent extraordinaire de bien, si on le surmonte. Ça peut être celui qui va nous emmener dans le mur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous ressemble. Donc celui qui est fin, il va avoir un Yetzara qui est fin et des épreuves qui sont fines. Celui qui est grossier, il va avoir des épreuves qui sont grossières. Maintenant, ça ne sera que la projection de ce qu'il contient. Maintenant, de la même manière qu'on contient le plein qu'on a en soi, on rencontre des gens entiers parce qu'on est quelqu'un d'entier. Alors aussi, on va rencontrer ses manques, parce que ses manques, on les projette. Et comme on en a besoin, oui, alors on nous envoie quelque chose qui ressemble à nos manques. Et le problème, c'est quoi? C'est que des fois, le manque, il est d'une perfection tellement grande dans la complémentarité de ce qu'on a besoin, qu'on peut dire presque que c'est une yacharim. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais dans le mal. Étant donné que je projette mon manque. Donc, et le yitzhara, il s'appelle le manque. Maintenant, c'est quoi le Yetzirah? Nous, on croit le Yetzirah, le Belzébuth et l'ange du mal. Non, le Yetzirah, c'est un partenaire de vie. Donc maintenant, il me propose quelque chose dans la réalité. Maintenant, lui, il a été créé pour me faire grandir. Comment je grandis? Par l'épreuve. Maintenant, le problème, c'est comment j'aborde l'épreuve? Est-ce que je vais l'aborder avec Yashrut? Est-ce que je vais l'aborder avec Tmimut? Mais déjà, il faut accepter le principe que l'épreuve, elle va exister. Maintenant, encore une fois, cette épreuve-là, elle va être très très fine chez les gens fins, elle va être très grossière. Maintenant, le problème, c'est que dans la perspective, avec le recul, la différence entre l'intervention du Yetzer Hara et l'intervention de Dieu, elle est très dure à faire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un m'a raconté cette histoire il y a quelques jours. Écoutez bien, elle est incroyable. Il y a un monsieur, Lo Alechem, est marié depuis 15 ans, et il trompe sa femme. Il a trompé sa femme. Ça fait 6 mois qu'il trompe sa femme. Il est juif, elle est juive, il fait pas des avérotes. Il fait des belles avérotes, la méadrine, il fait pas des avérotes comme ça. Alors maintenant, au bout de 6 mois qu'il trompe sa femme, il est mélangé dans son... Parce que d'un côté, il veut pas divorcer, d'un autre côté, il fait des bêtises, il est pas bien, il est taboula dans le cœur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son rab. Son rab, il est à 12 000 km de là. Le rab, il dit, viens tout de suite en Israël. Lui dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un peu d'argent, vite, il va à l'aéroport, il rentre dans l'avion. Il s'assoit dans l'avion, il a 12 heures de vol, c'est très loin, 8 plus 4. Et il y a un monsieur à côté de lui, il ne le connaît pas, il n'a jamais vu de sa vie. Ils sont assis tous les deux, moi il voit qu'il est juif, lui aussi il est juif. Moi il est un peu fragile en ce moment, il commence à parler, tu sais. Il dit, mais pourquoi tu fais cette tête? Je ne sais pas ce que j'ai, je suis un peu tordu dans ma vie, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, voilà, je suis marié, j'aime ma femme, et d'un autre côté, je ne sais pas ce que j'ai, un yéter hara, j'ai rencontré quelqu'un, et je l'aime, et elle m'apporte ça, et l'autre, elle m'apporte ça. Le vrai saf avec le vrai doute, et le tahalwed dans la tête. Maintenant, il ne connaît pas cette personne-là. Ils font les 12 heures de vol, ils arrivent à l'aéroport. Ils sortent de l'aéroport, l'histoire est vraie, hein, la personne qui m'a renvoyé, c'est celle qui est assise dans l'avion. Ils arrivent à l'aéroport, sur les 400 passagers, il manque deux bagages. Lesquels? Les deux. Bon. Alors, il n'y a pas de bagage. Alors, celui-là, qui ne le connaissait pas, qui l'a rencontré dans l'avion, avec qui il a parlé, il lui dit, tu sais, j'ai un cousin, Tel Aviv, il a un magasin de vêtements. Viens, on va là-bas, on va acheter des vêtements, parce qu'on a le droit, par la compagnie, d'acheter des vêtements. Il dit, bon, on y va. Ils prennent le taxi, ils arrivent à un truc, ils achètent les vêtements, mais c'était vers 7h du soir, 7h30, comme ça. Le cousin, il les voit sympathiques, il dit, tu sais, venez, moi, prendre un verre à la maison. Moi, je ferme le magasin. Venez, on y va. Ah, il dit, bon, on y va. Ils prennent les affaires qu'ils ont achetées, ils arrivent là-bas à la maison. Il boit un petit verre, il dit, écoute, vous êtes tellement gentil, allez, venez, on fait un repas. Il appelle sa femme, chérie, fais-nous un petit peu, il mange, ils ont bien mangé, ils sont contents, il a passé une soirée extraordinaire. Il dit, où tu vas? Il dit, ben, je vais dormir à l'hôtel Hilton, à Tel Aviv. Il dit, mais pourquoi? Tu vas être tout seul là-bas? Dors ici, c'est bien. Regarde, ma fille, elle est à l'université, la chambre, elle est libre. Prends sa chambre et tu dors là-bas. Et tu lui dis, d'accord. Donc il prend les affaires qu'il a truquées, il va pour dormir dans la chambre, il allume la lumière. Maintenant, sur le bureau, il y a un cadre avec une photo, il y a deux personnes dessus. Une, c'est la jeune fille qui habite là, et la deuxième, c'est sa maîtresse. Juif. Il a Tel Aviv, non? Mais c'est pas possible. Maintenant, ça veut dire celle-là, c'est la nièce de la fille, c'est la nièce du garçon qu'il a rencontré dans l'avion, qu'il ne connaissait jamais de sa vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Déjà, dans l'avion, il y a 400 places. Il faut que ça soit les deux à côté de l'autre. C'est pas son frère, c'est pas son cousin. Il faut qu'il y ait deux valises qui se perdent, ces deux seuls-là. Il faut qu'ils aillent chez le cousin pour acheter, le cousin celui-là, pour aller dormir dans la chambre de la nièce, qui c'est la nièce de la femme qui est au Canada en même temps, pour qu'elles soient les deux sur la photo et qu'il la voit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il appelle la maîtresse. Il lui dit, tu sais chez qui je suis? Il dit non. Il dit, je suis. Qu'est-ce que tu fais chez ma cousine? Il dit, c'est incroyable. Ça veut dire que c'est un signe du ciel qu'on est fait l'un pour l'autre. Regarde qu'est-ce que Yetzer Hara peut faire pour que tu crois que dans ta bêtise, tu es sur la bonne voie. Comment tu vas faire la différence avec un miracle Mina Shamaim? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que Yetzer Hara, il faut qu'il lui trouve un voyage à celui-là. Il faut qu'il lui mette la place l'un à côté de l'autre. Il faut qu'il leur perde le bagage. Il faut que le cousin, il faut qu'il y ait une photo. Faut que cette photo elle soit sur le bureau. Faut qu'il la voie en rentrant. Vous voulez la fin de l'histoire ou non? Quand il a vu ça, il a dit, ça se voit que le bon Dieu, il veut nous montrer que c'est la bonne, c'est pas la femme de ménage. Ouais. Et une semaine après, la maîtresse, elle a fait un accident de voiture. Elle a fait 6 tonneaux, elle a failli mourir. Elle s'est cassée une jambe. Elle a dit, écoute, on arrête, moi je touche pas à un homme marié, c'est trop dangereux. Ouais. Il m'a dit, si c'est Echia, c'est lui qui m'a raconté. Il m'a dit, si elle n'avait pas arrêté, moi j'aurais pas arrêté. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, pourquoi le Yetzer Hara, il t'envoie exactement ce que tu as besoin? Je vous dis l'illusion d'optique, ouais. Il n'y a pas un plus grand. Qu'est-ce qui ressemble à un grand sadique? Peut-être un grand rachat. Qu'est-ce qui ressemble à un honnête homme? Un escroc. Qu'est-ce qui ressemble à une bonne occasion? Une mauvaise occasion? Alors comment tu vas faire pour savoir quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est pas bien? Comment tu vas savoir s'il faut s'investir ou s'il faut s'enfuir? Encore une fois, l'épreuve, elle n'est pas toujours grossière, puisque plus tu grandis, plus l'épreuve elle est fine. Donc c'est celui qui est intelligent dans sa tête, il va avoir un yetzera dans la tête. Celui-là qui a un sens de l'observation, il va avoir des choses à voir. Celui-là qui a une bouche forte, il va trouver des gens faibles un peu qui ont besoin de l'écouter. Chacun, par rapport à ses capacités, par rapport à son plus, par rapport à son moins, il va avoir une réalité en face de lui. Donc son épreuve, elle lui ressemble. C'est-à-dire que le manque qui est en lui, ouais, il est devant lui, puisque quand il a vidé la bouteille, combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. C'est ce qu'il a devant lui. Donc celui qui voit, celui qui connaît ses manques, il connaît ses épreuves. Celui qui connaît ses faiblesses, il sait sur quoi l'idée de ça arrive à l'attraper. Un autre qui me téléphone, il me dit, j'ai un conflit de business avec quelqu'un, on est associés ensemble, au départ il m'a apporté une prestation, après il était à 10%, après maintenant il a beaucoup travaillé, il a tout développé le site internet, maintenant il me dit qu'il a 90%. Je dis, mais il y a des contrats. Il dit, non, il n'y a pas de contrat. Je dis, mais comment ça s'est passé? On a fait comme ça. Après il me dit, en plus tu sais en ce moment dans la société ça ne marche pas du tout, j'ai besoin d'argent. Je dis, oh là 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 là. Maintenant tu ne peux plus juger ton histoire, parce que tu as besoin d'argent. Donc tu vas te dire que l'autre c'est un voleur. Maintenant, toi, ce type-là, je le connais, il est honnête, il est religieux. Mais maintenant qu'il a 450 000 euros de découvert dans la société et que l'autre, par hasard, dans leur association, il a fait 400 000 euros de bénéfices, il a une yetzerara de dire c'est mon argent. Ce qui est ça, il s'en fiche. 1 million d'euros, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros. Il veut te créer un manque pour que toi, ce manque, tu le trouves là-bas. Comme l'autre qui a un gros problème de communication avec sa femme, il va trouver une secrétaire qui est très très facile à communiquer. Et celle-là qui manque d'affection avec son mari, elle va trouver un ex qui lui tombe de je sais pas où, qui est très beaucoup d'affection. Pourquoi? Parce que le manque, il crée la réalité. Et c'est ton manque qui crée la réalité. Maintenant, nous, le manque, on l'appelle yetzera. Eux, ils appellent projection de ton être intérieur. Ça change rien. Maintenant, encore une fois, j'accepte que ça s'est adapté à moi. Je dis, oh! Qu'est-ce qui m'arrive là? Il y a devant moi, il y a une question qui se pose. Maintenant, cette question, comment je l'aborde? Est-ce que je l'aborde des yashrut ou est-ce que je l'aborde des tmimout? Maintenant, c'est pareil, que ce soit une épreuve avec un enfant, que ce soit une épreuve avec moi-même, que ce soit une épreuve avec l'argent, que ce soit une épreuve avec la maladie. Il y a des douleurs. Le médecin, il me dit, écoutez, je ne sais pas, on va faire des examens, mais je ne sais pas exactement, cette tache, elle est bizarre sur l'IRM. Et lui, il a mal. Ouais, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu pries? Tu te révoltes, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes des veilleuses, tu insultes le bon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Betmimut, Beyashkut, comment tu vas faire? C'est pour ça que c'est très très important de bien comprendre et surtout de bien imprégner dans sa tête qui on est et qu'est-ce qu'on veut, parce que tout ce qui est devant nous, ça n'est que la projection de ce qu'on est. Il faut bien être clair. Maintenant les gens, ils sont perdus parce qu'ils se cherchent, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils mélangent, parce qu'ils vivent selon les humeurs. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'argent. Après, ce qui compte, c'est la famille. Après, ce qui compte, c'est eux. Après, c'est les mères. Après, c'est la politique. Après, c'est le stress. Après, c'est le dollar. Après, comme ils sont changeants, ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas fixes. Or, qu'est-ce qui est fixe? C'est la terre. Vous savez, tu peux, cette terre-là, elle est là. Maintenant, tu peux mettre du parterre. Tu peux faire une synagogue. Tu peux faire une boîte de nuit. Tu peux casser les murs. Tu peux reconstruire les murs. Mais la terre, elle reste. La terre, c'est le repère. La terre, c'est la solidité. La terre, c'est la perpétuité. Comment on dit? On dit, tu sais, quand tu peux investir dans les biens immobiliers ou dans les biens immobiliers. Tu vas investir dans les actions, ça fluctue. Alors achète des immeubles. L'immeuble, il reste, il est là, c'est une valeur. Ouais. Alors, les biens mobiliers, en araméen, on dit nirse denaide. Nirse denaide, c'est des biens qui bougent. C'est mobilier, ça bouge. Ouais. Par contre, delonaide, c'est immobilier, ça bouge pas. Maintenant, il faut bien comprendre, dans la vie aussi, il y a des gens qui s'appellent Nirse Denaide, c'est des gens qui bougent, des gens instables. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il est comme ça, tu dis, oh. Et tu m'as dit le contraire. Ah, mais tu sais, c'est pas facile, et puis tu m'énerves, et tu m'angoisses, et ah, j'en ai, oh, ils sont comme ça, ouh, ouh. Ouais. L'autre, il est Nirse Denaide, tu viens ici, tu viens dans 10 ans, tu viens dans 20 ans, la même halakha, le même principe, les mêmes migotes, la même stabilité. Comment c'est possible? Comment quelqu'un, malgré les aléas, malgré les chocs, malgré les souffrances, malgré les bonheurs, il reste comme ça. Comment on fait ça? Comment, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'intérieur comme système électronique pour réussir à traverser les événements avec ce même tempérament, avec cette même force? Ouais. Alors, on sait que Yaakov Avinu, c'est le modèle. Ça, c'est marqué, le visage de Yaakov Avinu, il est gravé sur le trône céleste. Parce que c'est le modèle de Am Israël. Nous, on s'appelle Béné Israël. On ne s'appelle pas Béné Abraham, on ne s'appelle pas Béné Israël, on s'appelle Béné Israël. Béné Israël, c'est Béné Yaakov. Donc Yaakov, c'est le modèle. Maintenant, Yaakov, il s'appelle Israël, et il s'appelle aussi Yeshurun. Dans Israël, il y a Yachar. Yachar, quel? C'est quoi Yachar? C'est pas la même qualité du tout, la droiture, c'est pas du tout la même qualité que la Tmimout. Et pourtant, Yaakov, il s'appelle Ish Tam Yoshev Oanim. Tam, un homme intègre, assis dans la tente, il est Tam. Et d'un autre côté, il est Yachar, parce qu'il s'appelle Israël, Yachar Ken. Alors regardez ce qu'il dit le Maharal de Prague. Va'efresh Asher Benehem, la différence qu'il y a entre les deux. Qui a Yachar, Mitzat Sichlo Bechochmato. Car celui qui est droit, selon son intelligence et sa sagesse, Mitbonen La'akot Ayachar. Il réfléchit pour faire ce qui est droit. En français, on appelle ça qu'il a un axe et qu'il va suivre l'axe. Comment quelqu'un, on appelle quelqu'un qui n'a pas d'axe? On appelle un désaxé. Tu es désaxé, toi. Ouais. Maintenant, un axe, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est transparent. Comme quelqu'un qui a des valeurs. Ce matin, quelqu'un me téléphone. Ah, tout à l'heure, à l'aéroport. Elle m'a dit, Rabbi Chetrit, j'ai un garçon de 17 ans. Il a pris des coups quand il était petit, il s'est pris la honte quand il était à l'école, maintenant il ne veut rien savoir, il a tout rejeté, son père, sa mère, la religion, les trucs. Je dis, mais il a des amis, il n'a pas d'amis, il a des croyances, il n'a pas de croyances, il a des valeurs, il n'a pas de valeurs. Je dis, comment on va l'attraper par où? C'est une savonnette. Il n'y a rien. Ouais. Il est retrouvé dans une solitude, jeté. Je dis, mais il a du respect de soi? Non. Et il croit dans quelque chose? Non. Il y a quelque chose qui lui fait plaisir? Non. Par où tu vas l'attraper? Elle m'a dit, vous pouvez pas lui téléphoner. Mais je téléphone à une savonnette. C'est très difficile d'attraper une savonnette. Ben, c'est exactement pareil. Il dit, quelqu'un, il a des axes dans la vie. Ouais. S'il est religieux, il est religieux. S'il n'est pas religieux, au moins il a des principes. S'il n'a pas des principes, il a au moins des valeurs. S'il n'a pas des valeurs, il a au moins des sensibilités. Mais s'il n'a rien, le dangereux. Ouais. Alors il n'y a rien qui va le tenir. Il dit, c'est quoi? C'est que Mitzat Sichlo, le Yachar, par rapport à son sechel, par rapport à son cerveau, il sait qu'il y a des choses qu'il sait faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il dit, vers Atamim ou chez Oler Bederech Hayachar. Par contre, le Tamim, celui qui est intègre, c'est celui qui va dans le chemin de la droiture. Blishoum il bonenout, sans aucune réflexion. Rak Oler Bedarko Betmimout. Seulement il va dans son chemin avec intégrité. Alors on va dire en français, on va dire comme ça. Il y a quelqu'un qui est analytique, qui va réfléchir, qui va faire des calculs, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il élimine toutes les mauvaises solutions jusqu'à ce qu'il reste la bonne. Et il y a quelqu'un qui est intuitif. L'intuitif, il dit c'est comme ça. Tu dis mais pourquoi? Il dit je sais pas, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Je sens que c'est comme ça, et je vais être comme ça, et je vais finir comme ça, et c'est bien comme ça. Tu mets d'où tu sais? Je sais pas. Maintenant les deux, ils arrivent à la même solution, mais un il est passé par un calcul, et l'autre il est passé direct, il est arrivé direct. Comment ça fonctionne? Comment ça marche que quelqu'un? Alors, en français, on appelle ça le bon sens. C'est un truc incroyable que j'ai découvert il y a quelques années. Et j'ai dit ça à un rav, il était un peu étonné. Je lui ai dit, il faut étudier des milliers de pages de Gemara pour avoir confiance dans son bon sens. Des fois, vous allez voir un rav. Maintenant, c'est un chacham, il connaît toute la Torah entière. Vous lui posez une question qui vous tient à cœur depuis 5 ans. Et il vous répond, et vous dites, waouh! C'est incroyable. Après, vous sortez, vous réfléchissez, vous dites, bon, mais ce qu'il m'a dit, c'est évident. C'est évident. Je dis, c'était pas la peine de faire la queue pendant 4 heures et de faire 4000 km pour écouter un truc qui est évident. Mais le problème, c'est quoi? C'est sûr que c'est évident. Mais c'est parce que maintenant, tu as confiance d'écouter, parce qu'il t'a fait sortir de tes doutes, parce que tu es dans un moment d'affirmation, que ça devient évident. Mais cette évidence-là, avant, tu l'envisageais pas, pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance dans ton bon sens. Maintenant, le bon sens, c'est quoi? C'est quelque chose qui tombe sous le sens? C'est quelque chose d'évident? Ou c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et que tu as évité que ça soit troublé par tes peurs et par tes angoisses? C'est quoi le bon sens? Pourquoi tu fais des tarboulottes? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi tu n'es pas clair? Pourquoi? Tu dis, ben, je sais pas, peut-être c'est bien, peut-être ça va pas être compris, peut-être c'est pas le moment, l'autre il me regarde bizarre. Pourquoi c'est tellement difficile d'avoir du bon sens? Alors il y a un mot incroyable. On l'a lu dans la paracha de cette semaine. Quand Avraham Avinu il a voulu enterrer Sarah, il a demandé au Bénéchet de lui donner la terre. Et il a dit un langage bizarre. Il a dit Ki imet nafshechem. Ki imet nafshechem. Ça veut dire si vous voulez, si vous acceptez de me vendre la terre. Alors le Or Gedaliahu, il dit comment ça se fait que le mot nefesh ici, normalement le mot nefesh, il veut dire le moi, il veut dire la personne, il veut dire le psychique, oui. Donc ici le mot nefesh, il veut dire ratson. Ratson, c'est la volonté. Donc quand je dis ki imet nafshechem, ça veut dire si vous voulez, si vous voulez. Maintenant, si le mot nefesh, il veut dire la volonté, d'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire messirut nefesh? Parce que nous, normalement, on traduit messirut nefesh, le sacrifice de soi, le sacrifice de la personne. Je me sacrifie. Ouais, ani osenze de messirut nefesh. Vraiment, j'ai fait un sacrifice de moi-même. Mais si je dis que nefesh, ça veut dire ratson, donc messirut nefesh, ça veut dire sacrifice du ratson. Je dis, mais comment je sacrifie le ratson, il va rester quoi? Écoutez bien. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des bons, un bon ratson, un mauvais ratson. Par exemple, des fois, tu arrives en retard. Tu dis, bon, je peux dire la vérité, je peux dire que je me suis endormi, ou tu peux dire, on m'a bloqué, la voiture, elle a crevé un pneu. Il y a une tentation de mauvaise volonté. Maintenant, pour atteindre la bonne volonté, il faut sacrifier la mauvaise. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Vous comprenez ou non? Maintenant, j'ai la paresse qui me prend comme ça de ne pas faire la chose. Ouais? Et c'est une volonté, la paresse aussi. Alors maintenant, pour avoir du courage, je suis obligé de sacrifier ma paresse. Maintenant, j'ai envie de parler avec toi. Je dois m'excuser. Mais c'est difficile parce que ma gahara, mon amour propre, il me dit pourquoi je vais m'excuser moi? Des fois aussi, elle a tort. Alors je dis, je vais faire mes sirut nefesh. Je vais sacrifier ma gahara, mon amour propre, oui, pour qu'on soit ensemble. Ici, c'est pareil. Comment on arrive à ce sacrifice? C'est-à-dire que pour que tu entendes la deuxième voix, la bonne volonté, cette bonne volonté qui vient de la Neshama, mais qui a été détournée par le Yetzer Hara pour retrouver la première volonté, ça s'appelle Akol Adofet Bach, il y a une voix qui frappe en toi. Comme quoi tu dis, je sais que c'est pas bien, je devrais pas le faire, ça, je vais le regretter, je sens que c'est pas bien, je sens que j'ai pas bien. Alors pourquoi je le fais? Parce qu'il y a une voix qui monte en toi. Qui est bonne, ouais, et il y en a une qui est mauvaise. Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle une dérive du flux existentiel. Ouais, il prend ton flux existentiel, ouais, c'est-à-dire ton énergie qui sort de ton âme, et il l'oriente vers quelque chose de mauvais. Et toi, tu fais la chose la plus abominable qui existe dans le monde, et en même temps la plus naturelle, tu te laisses aller. Ouais. Maintenant, pour arriver au contraire, tu dois faire un effort. Maintenant, cet effort-là, de choisir la bonne volonté en sacrifiant la mauvaise, tu peux la faire soit par le sechel, soit par le cerveau, parce que tu dis, mais c'est pas possible, c'est illogique, c'est impossible, ça s'appelle la yashrut. Soit tu peux la faire comme une espèce d'évidence, c'est comme ça que ça doit être, même si je comprends rien, et ça s'appelle la tmimut. Maintenant, quel chemin il faut choisir? Vous suivez ou non? Dans les deux, il y a des pièges. Celui qui fait tout avec son cerveau, on va l'attraper sur le cerveau. Celui qui fait tout avec son instinct, on va l'attraper sur l'instinct. C'est compliqué. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Ki advarim shelatzmo ayanoeg betmimut. Yaakov Avinu, tout ce qui le concernait à lui, il se conduisait avec intégrité. Ouais, les yeux fermés, c'est comme ça, c'est comme ça. Daino Adavar Sheu Magia Elatsmo. Akadosh Baruch Hu lui envoie du bien, Bet Mimut. Hachem lui envoie un malheur, Bet Mimut. Il gagne 1 million d'euros, Bet Mimut. Il perd 1 million d'euros, Bet Mimut. Tout ce qui le touche à lui. Là, il fait avec la Tmimut, avec l'intégrité. Par contre, les choses qui touchent les autres, ouais, tu dois de l'argent à quelqu'un. Il te dit, quand est-ce que tu vas me le rendre? Tu lui dis, seul Dieu le sait. Il dit Amagiim El Acherim ou Basé et non Raouyat Mimout. Ouais. Il dit donne-moi des chèques, donne-moi des traites, donne-moi une date, donne-moi quelque chose. Non, Bitachon Bachem, Bizlat Hashem Yetov. Tu me rends-moi la marchandise si tu ne veux pas la payer. Ah, oh, tu sais. Ouais. Il te dit, mais tu m'as pris la marchandise. Si tu ne peux pas payer, rends-moi la marchandise. L'Hachem arrête, il ah, tout est à Dieu. Qu'est-ce que ça change? Qu'elle est chez toi, qu'elle est chez moi? Qu'est-ce que ça change? Je dis, mais t'es malade. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend les qualités de la Tmimout, mais il les applique dans un moment où on a besoin de la Yashrout. Donne-moi une réponse précise. Oh, tu sais, tout est beau, tout est grand, tout est sympathique. Non. Là, il faut. Alors il dit, en ce qui concerne les autres, il faut de la Yashrout. En ce qui concerne toi-même, il faut de la Tmimout. Les gens, le contraire, avec eux-mêmes, oui, ils sont très tolérants. Avec les autres, ils sont intolérants. Avec eux-mêmes, ils font des calculs. Pourquoi et comment et pourquoi et comment. Mais le problème, c'est que la yashrut, elle exige la rigueur intellectuelle. La rigueur intellectuelle, quand tu n'arrives pas à la régler, ouais, quand tu n'arrives pas à trouver la réponse, elle crée la révolte. Pourquoi les gens ils se révoltent? Parce qu'ils disent parce que je ne comprends pas. D'accord? Je ne comprends pas, alors je me révolte. Ils ne savent pas. Voilà, celui-là, il a été tué. Alors, pourquoi il a été tué? C'est pas normal pourquoi il a été tué. Pourquoi Dieu me l'a enlevé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il faut la tmimout. D'abord, numéro un, tu dois accepter la situation. Après, peut-être dans 8 ou 10 ans, là, tu vas réfléchir. Mais toi, tu dis non. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Et après, je vais accepter. Mais dans les choses où il n'y a rien à comprendre, comment on appelle le refus de comprendre? On appelle ça la révolte. Comme les enfants. L'enfant, il faut beaucoup lui expliquer. Et de temps en temps, il faut faire des choses sans lui expliquer. C'est comme ça. Va dormir. Pourquoi? Va dormir. Ah, pourquoi? C'est pourquoi? Parce que aussi dans la vie, des fois, il y a des choses. Le bon Dieu, il ne va pas lui expliquer. Mais comme il a l'habitude d'avoir une explication à tout, alors quelqu'un qui a un grand cerveau, qui peut comprendre beaucoup de choses, ouais, et qui a l'habitude de comprendre tout, vous savez ce qui se passe quand il ne comprend rien? Il devient fou. Son cerveau, il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est pour ça qu'on a créé l'autre qualité, qui s'appelle la tmimout, pour dire, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est une mitzvah de réfléchir. Ce sur quoi je peux réfléchir, c'est une mitzvah de réfléchir. Mais ce sur quoi je ne peux pas réfléchir, les choses qui ne dépendent pas de moi, c'est une mitzvah de ne pas réfléchir. C'est une mitzvah. Les gens, ils font le contraire. Là où ça ne dépend pas d'eux, ils se prennent la tête. Et là où ça dépend d'eux, ils font la tmimout. Mais non, c'est là pour réfléchir maintenant. C'est à toi d'organiser le travail. Tu sais, on fera comme ça viendra, le jour où ça se présentera. Mais non, tu dois avoir de l'avance sur ton travail, tu dois gérer les postes, tu dois gérer l'argent, tu dois organiser. Non, tu sais, moi je laisse venir les trucs, moi je joue au car, je bois mon café, et quand il vient le client, on réfléchit. Le magasin, il ouvre à 8 heures. Les vendeurs, ils viennent, les ouvriers viennent dans 3 heures. Il faut que tout le planning il soit prêt. Mais non, comme ça, bien, on verra s'il y a un client, s'il n'y a pas de client. Dépôt de bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Là, vraiment, je me pose des questions. Ah, maintenant, il fait la yashrut. Avant, il a fait la tmimout. Toute la vie, c'est comme ça. Donc, pourquoi? Ces deux qualités, elles sont paradoxales, mais en même temps, elles sont complémentaires. Parce que si elles sont contraires l'une à l'autre, parce qu'en général, les gens, ils sont ou analytiques ou intuitifs. Comment c'est possible que Yaakov Aminou, il avait les deux qualités? Ce qui s'appelle Israël, c'est Yachar, et il est Ishtam, il avait la Tmimout. Comment il peut avoir les deux? Alors, ici, c'est marqué ici, Mikol Makom, Shte Amidot, Ka'asher, ou Enosar, Mina Yachar, Ve'araoul. Les deux qualités, lorsqu'un homme, il ne se détache pas de ce qui est droit et de ce qui est bien. Aichad Mitzadatsmo, Vetmimut d'Ako, Vacheni Mitzat Sirlo, ou Bocher Ayashar. Ça veut dire qu'en fait, c'est une dynamique. C'est un peu comme dans une voiture, il y a la direction et il y a les amortisseurs. La direction, c'est ce qui permet à la voiture d'aller droit. Mais les amortisseurs, ça permet à la voiture de ne pas sortir dans le virage. Parce que la voiture, elle va s'adapter à la forme de la route. Comme dans le corps, il y a le squelette. Le squelette, il est dur. Et les muscles, ils sont mous. Maintenant, pourquoi les muscles, ils sont rouges et le squelette, il est blanc? Pourquoi les os, ils sont blancs et les muscles, ils sont rouges? C'est bizarre, hein? Maintenant, le muscle, il est mou. D'accord? Mais le squelette, il est dur. C'est bizarre, parce que le dur, en général, c'est la midatadine. La midatadine, c'est la rigueur. La rigueur, c'est la structure. Le squelette, c'est la structure. Celui qui n'a pas de squelette, c'est un sac de viande. Par contre, le muscle, lui, c'est ce qui est mou. Ce qui est mou, c'est ce qui va amortir. Si quelqu'un reçoit un coup, ça tombe sur le muscle, il a un bleu. Si ça tombe sur l'os, il est cassé. Donc le muscle, il va amortir les coups, ouais, et le squelette, il va tenir le corps. Et c'est bizarre, parce que le rouge, c'est midat hadin, et le blanc, c'est midat harahamim. C'est l'inverse. Pourquoi? Parce que le din, ouais, le din, pour qu'il puisse fonctionner, pour que la rigueur elle puisse fonctionner, il faut qu'elle soit l'effi harahamim. Et pour que le rahamim puisse fonctionner, il faut qu'il soit structuré par le din. Ça s'appelle din des rahamim et rahamim bedin. Oui, l'enfant il a besoin de la rigueur, mais il a aussi besoin de la bonté. Maintenant, il faut que la bonté elle vienne par principe, parce que c'est normal qu'il en ait. Donc ça s'appelle rahamim bedin. Mais d'un autre côté, il faut aussi que la gentillesse elle ait une limite pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas se moquer du monde. Donc il faut du din dans le rahamim. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les systèmes, ils contiennent les deux complémentaires. Tout, oui. Dans un couple, il faut du respect, il faut de la tendresse, il faut de l'amour. S'il n'y a que de l'amour et qu'il n'y a pas de respect, l'amour, il devient de la haine. Maintenant, s'il y a du respect et qu'il n'y a pas d'amour, le respect, il devient de la froideur. Bonsoir. Oui. Y a-t-il quelque chose à manger? Non. Alors, à demain. Bonne soirée. C'est-à-dire, je vais mourir. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien du tout. Non, ce n'est pas la peine, tu sais, écoute, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de règles, les enfants sont nés, la maison est rangée, bon, bah, écoute, tout va bien. Tu ne sens pas qu'il manque un truc? Non. C'est vrai, un cadavre. Vous savez comment on l'empêche de pourrir? On enlève le sang. Donc le couple, quand tu lui enlèves le sang, il ne risque pas de pourrir, il peut rester 20 ans comme ça. Confirmation, d'accord. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est pour ça que c'est marqué Yesharim, on a dit tout à l'heure, Yesharim, Ishrenu, Eretz. Ils vont résider, ils vont s'installer, ils vont être sur la terre. Parce que pourquoi? Il dit le Maharal, Kelomar, chez Yeshlaem Kiyum. Ils ont une perpétuité, chez Aretz, Yeshla Kiyum, parce que la terre, elle a une perpétuité. Même dans la création, on dit qu'Hachem, il a créé plusieurs fois le monde, mais à chaque fois, il garde la terre. Ouais. Il a créé plusieurs mondes, mais à chaque fois, il garde la terre. Maintenant, ici, sur cette terre, il y avait une civilisation. Après, il y avait une autre civilisation. Après, il y avait une autre civilisation. On creuse. On trouve les Grecs, on trouve les Romains, on trouve les Visigoths, on trouve les Ostrogoths, on trouve les Navigoths. Oui, on trouve des choses. Mais la terre, elle reste. Elle reste, la terre. Oui, c'est exactement pareil. Maintenant, pourquoi c'est marqué que les Yesharim, eux, ils vont être fixés dans la terre? Ça s'appelle l'enracinement. Eretz, c'est ce qui est fixe. Alors chacun d'entre nous, il doit bien réfléchir chez lui, qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui n'est pas fixe. Combien il a un rapport avec ce qui est fixe. Combien il a une perpétuité dans ses choix. Combien il a vraiment intégré ce qu'il croit. Combien est-ce que les idées, elles sont concrètes chez lui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si on réfléchit bien, nous on croit, bah, tu sais, bah, il faut être réaliste, et puis ça c'est du solide, ça c'est pas du solide. En vérité, c'est faux. Tout ça, c'est qu'une question de confiance. Ouais. Par exemple, les gens, ils croient qu'ils sont mariés parce qu'ils étaient à la synagogue, parce qu'il y avait les témoins, parce qu'il a donné la bague, parce qu'on a fait la simcha, parce qu'il y avait l'orchestre, il y avait le photographe, après on a fait la ketouva et tout ça. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un niveau de conscience que tu es marié. Donc le jour où il y a une épreuve, ouais, et que tu te rends compte en quelques secondes qu'il ne s'agit pas de ta femme que tu es en train d'embrasser, normalement, ta conscience de mariée, elle te dit « Oh, oh !» Qu'est-ce qui se passe? Si ta conscience de mariée ne réagit pas, c'est que tu n'es pas marié. C'est pareil. Maintenant, dès que l'enfant est né, tu commences à avoir peur. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais truquer dans l'éducation? Après, il est là-bas, où est-ce qu'il est? Tiens, il est sorti ce soir. Truc. Après, je m'en fous. Après, tu dis « Mais quand même, il est bien. Est-ce qu'il a attrapé froid? Est-ce qu'il a pris son téléphone? » Est-ce que ça s'appelle que tu es parent, pas parce que tu as des enfants. Tu es parent parce que tu as la conscience parent. Tu es patron, tu as la conscience patron. Tu es honnête, tu as la conscience de l'honnêteté. Tu es juif, tu as la conscience de Dieu. Donc en fin de compte, la relation qu'on entretient avec le monde, ça n'est qu'une relation de conscience. Maintenant, chaque fois que quelqu'un il est conscient, il est lié à la chose. À chaque fois que quelqu'un il est inconscient, il n'est pas lié à la chose. Donc celui-là, peut-être qu'il n'est pas marié. Ça peut arriver. Il y a des gens comme ça qui te disent. Encore là, j'ai reçu un email. Une femme, il y a 3 ans, son mari, il a été voir ailleurs, on a travaillé, il a écouté les cours, il a écouté les tirs, et fuir la faute, il s'est remis en cause, il a fait teshuva. Ils ont pleuré les deux, ils ont redonné la chance, ils se sont battus. J'étais content. On s'est revu là-bas, on s'est revu au Canada, on s'est revu à Ahmada. Finalement, elle m'envoie un autre email, elle me dit ça, il a replongé à Oudon Kolo avec une secrétaire du Mississippi. Elle me dit qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait avec les récidivistes? Tu sais plus le mec. Il dit mais j'aime ma femme, mais je comprends, mais j'ai besoin d'être, de sentir que je suis capable de charmer. Et ouais, jusqu'à quel âge? Quel âge? Quand est-ce que tu vas calmer l'incendie que tu as dans le ventre? C'est que sur la planète, l'endroit le plus chaud, c'est l'équateur. Quand est-ce que tu vas éteindre cet incendie? Combien t'attendais ta arrière-grand-père? Ils sont bizarres, les gens. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'il n'a pas cultivé la conscience d'être marié. Maintenant, la conscience, c'est quelque chose de complètement vaporeux. C'est quoi la conscience? Je ne sais pas, moi, c'est une réflexion. C'est quoi? C'est un état psychologique. C'est quoi? C'est une décision entérinée. C'est une concrétisation psychologique d'investissement. C'est quoi la conscience? Et d'un autre côté, c'est tout. Alors, comment quelqu'un il peut avoir une conscience qui est forte comme un arbre? Vous savez, les épicéas, là, les arbres qui font 100 mètres de haut, là, avec des racines de 90 mètres de profondeur. Quand est-ce que tu peux avoir accès à ça? Nirsi de l'onaïde, que tu ne bouges pas quand même. Ça s'appelle Eretz. Yesharim, oui. Les Yesharim, ils sont plantés dans la terre. Ils sont investis dans la terre. Ils sont enracinés dans la terre. Alors il dit, or nous on sait que le monde il est fait de quatre éléments. L'eau, le feu, l'air et le carbone. Le carbone c'est la terre. Il y a Afar, Avir, il y a l'air, Ruach, Esh, le feu et Maïm, l'eau. Il y en a trois qui bougent et un qui ne bouge pas. Maintenant, chaque fois que vous trouvez une règle dans le microscopique, vous la retrouvez dans le macroscopique. Oui? La terre, c'est la terre, elle reste là. L'eau, elle s'évapore, elle bouge. Ouais. L'air, il est là, il est là, il est là. Comment tu vas le retenir? Ouais. Et le feu, l'énergie, elle se mélange tout le temps, elle redistribue tout le temps. Donc, il y a un seul truc qui ne bouge pas. C'est quoi? C'est Afar. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Afar, en même temps, c'est la chose négative qui va te plomber. Parce qu'il dit le refrain vital, il dit d'où elle vient la tristesse, d'où elle vient la paresse, d'où elle vient la dépression, elle vient du rafa, le côté lourd qui est en toi. D'un autre côté, c'est aussi ton point de repère. Maintenant, si tu te sers d'un point de repère comme une accroche pour avancer, c'est bon le rafa. Si tu t'en sers pour t'enterrer, c'est mauvais. Comme dans tous les points de repère. Ouais. Il dit cette logique là ici. Que la personne, elle comprend que le hesh, le feu à l'intérieur de la personne, c'est quoi? C'est la joie, c'est les humeurs, c'est l'aïklahavut, c'est l'enthousiasme, c'est le feu, c'est les sentiments, c'est la passion. Il faut ça. D'un autre côté, le maïm, c'est quoi? C'est la fluidité. Ça coule, ouais, tu bouges. C'est aussi l'adaptation, parce que l'eau, elle prend la forme de la bouteille. Tu t'adaptes avec cette personne-là, t'es comme ça, avec cette situation, c'est comme ça. Là, tu parles, là, tu te tais. C'est la fluidité, c'est l'adaptation. C'est aussi le lion. Tu prends la poussière, tu mets l'eau, ça fait de la boue. Tu prends le ciment, tu mets l'eau, ça fait du béton. Donc l'eau, c'est ce qui crée le lien. Donc le côté eau qui est chez toi, tu t'arranges avec celui-là, tu t'arranges avec la famille, tu refondes des trucs, tu recrées les liens, tu mets le lien dans l'entreprise, tu mets le lien dans la société, tu mets le lien dans la communauté. Ça, c'est l'eau qui est en toi. Ça, c'est le roi qui est en toi. Ça, c'est le hesh qui est en toi. Mais la terre qui est en toi, c'est la stabilité. Alors, est-ce que toi, tu as une stabilité? Est-ce que toi... Tu es rassurant. Vous savez que rassurer, ça vient de assurer. Maintenant, quelqu'un, il assure, et après, il réassure. Il rassure. C'est quoi rassure? C'est que puisqu'il assure, il rassure. Maintenant, celui qui n'assure pas, ne rassure pas. Tu ne peux pas rassurer puisque tu n'assures pas. Tu dis, non mais je vais te rassurer, mais tu ne peux pas me rassurer, parce que toi-même tu n'assures pas. Tu dis une chose, tu le fais, quand je vois que tu le fais, ça me rassure. Maintenant ça tu me dis, je ne le fais pas, mais t'en fais pas, je vais te rassurer. Tu ne peux pas me rassurer parce que tu es le contraire de ce que tu dis. Tu es le contraire de ce que tu fais. Tu es le contraire de ce que tu penses. Donc tu n'as pas travaillé le côté Eretz. Ça c'est fixé maintenant, c'est comme ça, ça y est, c'est bon. L'honnêteté, c'est bon. Le mariage, c'est bon. Les téphilines, c'est bon. Le Shabbat, c'est bon. Ah, mais tu sais, c'est pas évident. Les gens disent, vous savez, j'étais Shomer Shabbat, puis après j'étais plus Shomer Shabbat. Et... Non, ou t'es Shomer Shabbat, et c'est fini, t'es Shomer Shabbat. Comme la Brit Mila, par exemple, c'est difficile de remettre en cause. On a coupé court à toute discussion. D'accord. Ben, de la même manière, Shabbat, c'est Shabbat. Maintenant, c'est fini, tu pourras plus être Mechalel Shabbat. Ouais, tu manges kasher, tu manges kasher. Ah, mais tu comprends, pendant les vacances, non, tu manges pas kasher. Non, mais c'est pas facile. Non, tu manges pas, c'est pas grave. Je t'ai rien dit, je t'ai pas dit, bon, ouais, tu manges pas kasher. Non, mais dans ta tête, tu dois me dire, je ne mange pas kasher. C'est tout. T'es honnête, t'es honnête. Ouais, mais je comprends, 1 million d'euros, on peut pas rater une occasion pareille. Donc, t'es un voleur. Non, je suis opportuniste. C'est-à-dire que tu étais né en Tunisie, et tu étais à l'entrée de la capitale. C'est au port Tunis. C'est vraiment au port de Tunis, d'accord? Non, le contraire, c'est quoi? C'est que la personne, elle est, en vérité, elle n'est pas fixe. Ton honnêteté, elle n'est pas fixe. Ton mariage, elle n'est pas fixe. Ta judéité, elle n'est pas fixe. Ta croyance, elle n'est pas fixe. Même ton moral, il n'est pas fixe. C'est en français, on dit, il a le moral au beau fixe. Mais c'est quoi le moral au beau fixe? C'est pas quand ça va bien, je suis bien. Quand ça va pas bien, je suis pas bien. Ah ben non. C'est quand ça va bien, je suis bien. Quand ça va pas, je suis bien. Rappelez l'exemple du capitaine. Avec
le café.
Avec le café. Est-ce que les absences se rappellent de l'exemple du capitaine dans le bateau? Rappelez-vous?
Non.
Levez la main si vous ne rappelez pas. Ça va? Même les absences se rappellent, c'est extraordinaire. Vous vous rappelez?
Oui.
C'est impossible, j'ai eu peur. Alors je le refais pour les gens qui n'étaient pas là, d'accord? Et au pire, c'est pour les autres, ça fera une trazara. C'est pas grave d'écouter deux fois, même moi, j'écoute tous mes cours. Il y a un monsieur qui a pris le bateau. Il a payé 3000 euros la plus belle cabine. Mais la mer, malheureusement, elle est un peu démontée. Donc on avance, des fois, quand vous êtes au bord de la mer, tout va très bien, mais quand vous avancez dans la mer, après, des fois, vous êtes vraiment dans la mer. Et le bateau, il bouge, et le type, il est en train de vomir, il marche dans le bateau comme ça, il cherche le capitaine pour crier, pour se faire rembourser les 3000 euros. Comment? J'ai payé une croisière et je suis en train de vomir. Il trouve le capitaine dans la cabine de pilotage, tranquille, en train de boire un café pourri, qui sent le chien, un vieux cigare qu'il a roulé lui-même avec des pneus ou je ne sais pas quoi, et il est bien. Et l'autre, il vomit. Hey, capitaine, je ne suis pas d'accord. Arrêtez le bateau. Arrêtez la tempête. Il dit, monsieur, c'est la tempête. Arrêtez le bateau. Je ne peux pas arrêter le bateau. Alors, au bout d'un moment, il dit, mais comment ça se fait que vous ne vomissez pas? Et je vais vous expliquer. Il y a deux grands enseignements dans cet exemple. La vie, c'est la mer. Le bateau, c'est toi. Maintenant, dans la vie, des fois, il y a le haut de la vague. Des fois, il y a le bas de la vague. Ouais. Des fois ça monte, c'est super. Des fois ça descend. Des fois ta femme elle est hyper sympa et des fois elle a une tête. Ouais. Des fois le magasin il explose. Des fois t'as même pas de quoi payer le courant. Ça monte et ça descend. Mais ce qui compte, c'est que le bateau il avance. N'arrête pas le bateau. Premier enseignement. Deuxième enseignement. Comment ça se fait que le type là il vomit et que le capitaine il vomit pas? Alors il lui dit, mais comment ça se fait que vous ne vomissez pas? L'autre il va dire, ben c'est la vie, parce que ça fait des années. Non. Il a dit, pourquoi c'est très simple? Parce que vous voyez la mer, elle a une forme, la mer. D'accord? Le bateau, il suit la forme de la mer. Il a dit, moi, je suis le mouvement du bateau. Maintenant, quand toi, tu acceptes ta réalité, tu ne la rejettes pas, tu ne vomis pas. Mais quand tu rejettes ta réalité, tu vomis. Parce que c'est quoi le vomissement? C'est le décalage entre ce que tu vis, oui, et ce que tu penses. Mais si tu dis aujourd'hui ça va, grâce à Dieu. Aujourd'hui ça va pas, grâce à Dieu. C'est ce que je fasse. Non, tu sais quoi? J'ai envie de vomir. C'est ça la nausée. Tu dis j'ai un haut le cœur. Parce que ton cœur, il n'est pas accroché. À quoi il est accroché ton cœur? À tes valeurs, à tes principes, à ta croyance. C'est ça la tmimout. C'est combien est-ce que toi, tu as fabriqué quelque chose en toi qui est tellement solide, qui ne dépend pas des événements, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de la tête de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la tête de l'autre. D'ailleurs, vous savez que, je vous dis un secret, mesdames, vous avez le droit d'être fatigué, mais ne le montrez pas. Le mari ne supporte pas que sa femme elle est fatiguée, c'est impossible, puisque c'est lui qui travaille. Non, je répète, quand bien sûr vous travaillez, mais il va falloir travailler, fatiguer, mais avec un sourire.
Et pour les hommes, la même chose.
Oui, bien sûr. Mais il fallait bien que j'en excite un pour que l'autre y comprenne. Donc c'est quoi les deux? C'est que c'est très dur. Parce que tu dis, alors quoi, je n'ai pas le droit de faire la gueule? Ça fait du bien de faire la gueule? Non, tu ne peux pas. Parce que l'autre, il ne supporte pas. L'autre, ça lui prend tellement force de voir que tu n'es pas bien. Par contre, si tu fais un sourire un peu farcé comme ça, tu vois, alors lui, il dit, tu es fatigué, toi. Pas du tout, va en HM. Je vais m'évanouir de fatigue. Alors là, il dit, bon, mais est-ce que tu as fait l'effort de sourire? Alors moi aussi, je vais t'aider. Alors si moi aussi, tu as fait l'effort de sourire, moi, je vais t'aider. C'est quoi cette idée-là? C'est que j'ai dépassé quelque chose, toi, tu as dépassé quelque chose. Ouais. Moi, je dépasse pour toi, toi, tu dépasses pour moi. Alors, on a quelque chose en commun. Parce que notre couple, c'est notre terre. Alors, on s'accroche à ça. Moi, je suis fatigué, mais la terre, elle est solide. Toi, tu es fatigué, mais la terre, elle est solide. Mais si je dis, non, la terre, c'est toi, la terre, c'est moi. Alors, ça va, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, la terre, elle fait la gueule. Aujourd'hui, la terre, elle est fatiguée. Voilà, j'en ai marre. Voilà, tu sais quoi, j'en ai marre. Voilà, je vais tomber maintenant. Allez, arrête. On le sait qu'on ne supporte pas. Alors, le contraire. Mais si les deux, on s'accroche, comme deux types qui sont en train de nager, il y a la terre, allez, continue à nager, continue. On va quelque part, ouais. Alors, c'est ça. On court après le bonheur qu'on projette, il est devant nous. C'est pareil. Tu vois l'enfant aujourd'hui, tu as déçu. Tu dis, moi, je ne vais pas lui, moi. Moi, je vais lui à la coupa. Il a 8 ans. Oui, à la coupa. Moi, je le regarde à la coupa. Je me bats pour la coupa. Je veux un sadique équilibré et autonome à la coupa. Maintenant, il a 8 ans, il redouble. On verra la coupa. Maintenant, je travaille pour la coupa. Tu vois loin. Ça, c'est Eret, ça, c'est la terre. C'est ça qui est solide. Ouais. C'est faire Torah. Tu es ma'amine que la Torah, elle est émette. Elle est émette. Ah, il y a des philosophes, il y a des scientifiques. Ah, il y a des trucs à la Torah, elle est émette, elle est émette. Tu as une terre. Avec qui la terre, elle est solide. La Torah, elle est solide. Alors, il y a des explications. L'âge du monde, la capacité de mesurer le temps, la manière, la relativité du temps par rapport à l'espace, l'âge de Dieu. Il y a des calculs, il y a de quoi faire. Mais il y a quelque chose de solide. Si tu n'es pas solide, un scientifique qui dit comme ça, pas. Le gars, il dit comme ça, pas. L'autre, il dit comme ça, pas. Je comprends pas, mais t'es quoi, toi? T'es une vapeur d'eau, quoi. Tu. Les gens qui écoutent le dernier. Pourquoi? Genre, moi, je reste sur mon point de vue. Alors, c'est quel point de vue, le dernier? Après, quelqu'un lui dit quelque chose, il dit, ah ouais, t'as raison. Après, un autre, il lui dit, après, l'autre, t'as raison. Ouais, t'as rien, toi. T'as rien de solide. Alors, en fait, la logique, c'est comme ça. Il y a la galaxie, la Terre, elle est au milieu. Ouais. Il dit en géométrie, ça s'appelle le point. Le point, c'est le centre. Maintenant, le point lui-même dans le cercle, il prend pas de place. En même temps, il est éloigné de tous les extrêmes, parce que les extrêmes, c'est ce qu'il y a autour. Après, il est libre de toutes les tendances, parce qu'il n'y a rien qui l'influence, il est au milieu. Après, il n'a pas de limite dans l'espace, le point, parce qu'il prend aucune place, le centre du cercle. Et après, il n'a pas donc de limite non plus dans l'existence. Il dit la personne, quand elle est recentrée sur elle-même, elle est recentrée. C'est-à-dire qu'elle sait que ses problèmes, elles viennent chez elle, et ses solutions, elles sont chez elle. Le jour, il y a un qui me téléphone, vendredi matin. Bon, c'était une semaine assez mouvementée. Il me téléphone en pleurs comme ça. Il n'y a rien, j'en peux plus, je vais mourir. C'est arrivé. Je suis malade. Ma femme n'aime même pas. C'est trop dur. J'arrive plus à dormir. Je suis en dépression. Le travail, j'ai peur. J'arriverai jamais. Je l'ai laissé parler. Quand il a fini de vomir, heureusement qu'il a une femme très forte, elle a pris le téléphone, elle l'a explosé de là. Il s'est calmé. J'ai dit, maintenant t'es prêt à écouter? Il m'a dit, oui, je t'explique. Tu es en situation d'allaitement. Il allait.
C'est quoi?
Allaiter. Il prend le singe. Je lui dis, c'est vrai que tes parents, je les connais, ils t'ont pas donné assez d'affection. C'est vrai qu'on t'a pas donné assez confiance en toi. Maintenant, quand quelqu'un ne te donne pas ce dont tu as besoin quand tu es petit, quand tu grandis, tu as deux solutions. Soit tu comprends que la solution, elle est chez toi, soit tu continues à chercher un saint à allaiter. Donc toi, tu vas chez les rabbins, tu dis, ma femme, elle m'aime pas. Tu vas chez les psychologues, tu dis, personne ne me comprend. Tu vas chez les médecins, tu dis, j'ai mal partout. Tu veux qu'on s'occupe de toi, tu veux qu'on t'allaite. Mais allaite tes lourdeurs. Tu veux ou non? Tu veux allaiter le monde. Donc tu épuises les gens, tu prends les forces. Je dis maintenant, ta femme, aujourd'hui, elle est à deux doigts, puisque tu dis que tu es fou, puisque tu dis que tu es dépressif, puisque tu dis que tu es foutu, tu sais que tu vas mourir. Maintenant, tu l'as tellement usée que maintenant, elle est à deux doigts de te mettre dans un asile psychiatrique. Je te dis, tu vas aller dans un asile psychiatrique avec des vrais fous qui font caca sur eux. Là, peut-être que tu vas dire, il faudrait que je cherche les ressources chez moi. Parce que l'étape d'après, c'est quoi? C'est les médicaments chroniques, après, c'est la crise, et après, c'est... Là, il devient vraiment fou. D'un seul coup, sa voix, elle a changé. Il dit, rien, tu me fais réfléchir. Où il est parti, le paniqué? Rôle. Ça veut dire que tant que l'enfant il peut avoir, gratuit, pourquoi il va payer? Ça va bien quand il a 8 ans. Mais à 38 ans, c'est un caprice. C'est un karaté. C'est exactement pareil. Ouais. Et ça s'appelle le centre. Maintenant, moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a les ressources. Maintenant, cet espace-là, qui me donne toutes mes forces, il ne prend pas de place. Et moi, je suis recentré sur moi. Ouais. Donc, je ne subis pas d'influence. Maintenant, il fait beau, il fait pas beau, il fait moche, il est sympathique, ça marche bien, le magasin il marche pas. Moi je suis recentré, maintenant je suis en train de faire la prière, je fais la prière. Comment je vais faire? Je n'ai pas reçu mes emails, et le magasin il n'a pas. Non, moi je suis dans la prière. Après je rentre au magasin, je m'occupe du magasin. Il dit mais comment ça se passe pour les enfants? Ils sont là les enfants, ils ne sont pas là. Maintenant je suis dans le magasin. Je rentre à la maison, allez, donne ma Mishnah, sans moi la dictée, sans moi les mathématiques. Ah, et comment je vais faire pour le magasin? On n'a pas reçu là. Tu vas lui dire ça, qu'est-ce qu'il fait? T'es ici, il te met la tête là-bas. T'es ici, tu mets le corps là-bas, tu mets le cœur là-bas, tu mets le truc là-bas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Tu n'arrives pas à recentrer. Il faut tout le temps le contraire, il faut recentrer. Recentrer. Alors quand tu as créé ce centre-là qui est Eretz, qui est solide, et tu fais l'effort perpétuellement de recentrer, donc tu ne vis pas dans le ponctuel, dans l'événementiel. Ouais, tu vis dans l'essentiel. Et l'essentiel ne bouge pas. Les valeurs, elles ne changent pas. Les valeurs de ton père, tes valeurs à toi, les valeurs de tes enfants, ça ne change pas. Comme quelqu'un, des fois il vient et me dit, mais grave, j'ai peur pour mon fils, j'ai peur pour ma fille. Je dis, vous l'avez éduquée. Elle est bien, c'est quelqu'un de bien. Oui, mais j'ai peur des influences. Elle est bien. Elle est solide. Elle a un bon fond. Ça va aller. C'est une bonne voiture. Ouais, c'est une bonne voiture. Non, tu l'as pas en bleu, tu l'as pas en rouge. Tu vas rayer la carrosserie, tu vas casser toute la carrosserie. Mais c'est une bonne voiture. Parce que le fond, il est bon. Tu as travaillé pour le fond. Si tu as travaillé pour la forme... Il y a des gens comme ça. Ah, vous savez, je l'ai mis dans la bonne école. Hein. On lui a toujours mis à manger. Je pense qu'elle avait sa chambre. A priori, c'est bon. Mais tu la connais? Non, non. T'as parlé avec elle? Non. T'as investi? Non. T'as prié pour? Non, non, pas du tout. Non. On a tout mis en place. Tout est bien. Hein. Vraiment, comme si tu vas dans un hôtel. Il y a des parents comme ça, c'est chambre d'hôtel. Bonjour. Bonjour. Alors, voici votre chambre. Bah, écoutez, je vous laisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Je dis non, mais je voudrais qu'on parle. Ah non, monsieur, moi, je suis juste responsable de l'hôtel. Hein. Les problèmes personnels, je ne peux pas m'en occuper. Allez. Aussi. Tu fais le contraire. Tu t'occupes de l'essentiel. Le superficiel, c'est pas grave. Maintenant, quand tu lui donnes pas l'essentiel, il va le chercher ailleurs. C'est pas dit qu'il va le chercher en cachère. Peut-être qu'il va le chercher en taref, puisqu'il lui manque l'essentiel. Mais quand tu lui as donné l'essentiel en cachère, même s'il a envie du taref, il sera au moins mal à l'aise du taref. Parce qu'il connaît le cachère. Encore hier soir, j'étais à Sarcelles, j'ai fait une conférence, 200 jeunes, j'avais une tête, j'avais cassé les murs. À la fin, il vient me voir, un jeune homme comme ça, 19 ans, il me dit, Rabbi Chetri, j'ai deux copines, est-ce que je dois continuer à leur parler? Je dis, copine, ou là, est-ce que vous faites des stages de secourisme ensemble? Secourisme, le bouche à bouche. Il m'a dit, c'est juste des filles à qui je parle, et ça me fait du bien de leur parler. Je dis, mais pourquoi ça te dérange de parler à des filles? Parce que t'es religieux. Il m'a dit oui. Je dis, tes parents ils sont fous. Oui, ils sont fous. Donc tes parents sont fous, toi aussi t'es fous. Mais seulement, tu dis, ça fait du bien de parler avec des filles. Je dis, bah pourquoi tu parles pas avec des garçons? Il m'a dit, c'est pas la même chose. Je dis, mais à quoi ça te sert? Je dis, pourquoi tu veux la même chose? Il m'a dit, mais c'est, j'ai besoin, ça me fait du bien de parler. Je dis, mais tu veux quoi? De l'amitié? Bon, on sait que l'amitié c'est dangereux. Les gens ils sont, vous savez, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. On est tous des amis, on est tous des amis, on est tous des collègues de bureau, on est tous de la famille, on est tous des beaux-frères, et puis d'un seul coup, il arrive des catastrophes. Alors il y a des règles. Ouais, avec les employés, ça reste une fonction. Il y a certaines discussions, certains niveaux de l'intimité qui ne rentrent pas. Ah, mais ça fait des années, je t'en prie, je la prends dans les bras, je la raccompagne, elle est fatiguée, je la rassure, je lui montre mon affection. Mais c'est pas ta zone. Non, mais il n'y a pas de mauvais esprit. Il n'y a jamais de mauvais esprit, jamais. On ne parle pas des réchaïs, on ne parle pas du pourri. Mais ça bascule. Oh. Parce que le mal, il est à l'extérieur. Ouais. Et toi, tu es le ani. Mais des fois, le mâle et le ani se mettent ensemble, ça fait animal. Tu as basculé. Ouais. Là, tu croyais que c'était un ordinateur, et là, tu t'es rendu compte qu'elle a une poitrine. D'un seul coup, jamais tu as imaginé que ça se faisait. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça a basculé. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des cadres. C'est la secrétaire, c'est voilà son travail, c'est le truc, c'est ça. Ça, c'est ça, les choses elles sont fixées. Ça sert à ça. Je dis, cette relation ne te sert à rien. Maintenant, le Yetzirah, aujourd'hui, il te le propose en cachère. Et si tu m'appelles dans 4 mois et tu me dis, elle est enceinte, la fille à qui ça me faisait du bien de me confier, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, je te dis le secret. Le secret, écoutez bien, le secret, c'est pas que tu es dans l'épreuve et tu tiens, et tu tiens. La mitzvah, c'est pas d'être en remède, béni soit-il, c'est pas de tenir dans l'épreuve. La mitzvah, c'est de ne pas être dans l'épreuve. Finalement, c'est de ne pas être sur la photo. C'est comme maintenant, il y a une grande escroquerie à Milan, d'accord, on a attrapé plein de gens, et les policiers, ils fouillent dans les ordinateurs, ils trouvent ton nom. Ils voient que tu étais au repas, ils voient que tu étais à la réunion. Ah, tu dis, ah non, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans, hein. Moi, j'étais là comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais sur la photo? Qu'est-ce que tu fais avec ces truands, ces embrouilleurs? Ah non, on se voyait comme ça, on jouait au poker. Moi, je ne savais pas qu'ils faisaient des magouilles et des vols. Mais qu'est-ce que tu fais sur la photo? Alors, tu fais un calvaire à mort. Si déjà la police, elle trouve pas normal qu'un type honnête comme toi, il traite avec des tordus, sauf si toi-même tu es un peu tordu. Alors, pourquoi le bon Dieu, il va trouver normal que tu te trouves dans des situations qui n'est pas normal? Donc, toi, tu sais. Puis ça, je sais. Ça, je peux. Ça, je ne peux pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends pas le risque. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la mitzvah, c'est pas de tenir dans l'épreuve, c'est pas que tu dis je vais en boîte de nuit, je vais dans les boîtes de striptease, mais je regarde mes teilim. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais tu es fou, mais tu crois que j'ai des mauvaises pensées? J'ai été pour ramener les teilim de la fille, justement, qui est bon, je peux pas la regarder, mais c'est celle qui désire. Son fils, il avait des teilim à vérifier, alors il nous a donné, je lui rends les teilim, tu peux pas l'avoir dans un autre endroit, tu peux envoyer quelqu'un à ta place, tu peux pas le faire différemment, tu peux pas, Michal, ne pas le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es lié à cette chose-là. Ça veut dire que ton centre, il n'est pas bien établi. Le centre de ton cercle, des fois il va là-bas, des fois il va là-bas, des fois il va là-bas. C'est pas normal, le centre, il reste au centre. Tu es loin des influences. Ouais, tu es loin. Tu es loin des humeurs. Tu es loin des mères. Ouais, tu es loin des circonstances. Parce que les choses, elles sont claires pour toi. Cette partie-là, il faut la fixer, il faut la construire. Ne croyez pas que ça vient comme ça. Juste parce qu'on a écouté la conférence, oh ouais, c'est vachement intéressant. Non. Ouais. Non seulement c'est une chose qui prend des années à construire, mais en plus qu'il faut la maintenir.
C'est
la maturité. Maintenant, pourquoi? Parce que les chocs, ils vont grandir quand tu vas grandir. Maintenant, là où les gens font l'erreur, c'est qu'ils prennent du matériel qui a été fabriqué de mauvaise qualité, ouais, et ils l'envoient dans des épreuves où on a besoin de la bonne qualité. C'est que les gens, ils croient qu'ils ont grandi, mais quand elle vient l'épreuve, au lieu de trouver un mât de bateau en tungstène, il a trouvé un mât en bois de cajou. C'est pas sans doute. Les gens, ils croient, parce qu'ils sont pères de famille, parce qu'ils sont patrons, parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils sont juifs, ils croient qu'ils sont solides. Non. Non seulement la solidité, il faut la fabriquer, mais en plus, la solidité, il faut la revitaliser, il faut la réanimer, il faut la recharger. Ouais. Encore cette Gemara, encore ce livre de Moussa, encore cette remise en cause, encore cette discussion avec ta femme, encore, vas-y, va parler avec elle, va évoluer avec elle, va grandir avec elle. Mais grâce à Dieu, on est marié, c'est bon, c'est pas la peine. Oh, bah, ça soit, comment tu vas, je veux comprendre avec toi, je veux grandir avec toi, je veux savoir ce que tu ressens. Ça y est, elle sait que je l'aime, je sais qu'elle m'aime, c'est bon. Et je t'ai dit, Bria Hadasha, c'est une nouvelle femme, c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle question, c'est une nouvelle épreuve. Si toi, tu te bases sur ta solidité d'il y a 5 ans pour les épreuves de maintenant, mais qui t'a dit que le mât il va tenir? Comme la fusée, quand la NASA elle envoie la fusée sur la Lune, c'est des millions de kilomètres. Mais chaque centième de seconde, l'ordinateur il recalcule la trajectoire pour savoir si elle est restée dans l'axe. Maintenant, nous on a un axe. On a le plan de la journée. Le plan de la journée, tu te lèves, tu fais la prière, tu travailles, tu. Après, on a le plan de l'année, on a les points du calendrier. Tout ça, c'est des manières de recalculer l'axe. Ouais. comment tu es avec Hachem, comment tu es avec ta prière, comment tu es avec ta famille, comment tu es, où tu en es, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu es solide, est-ce que tu es fragile, est-ce que, comme toi, moi des gens, des fois, ils m'appellent, ils disent, ah, mais je crois plus, j'ai envie, attends, avant de commencer la psychologie, la remise en cause de ton couple, et la remise en cause de Dieu, je dis, est-ce que tu dors la nuit? Non, je suis très fatigué, je suis très nerveux, j'arrive pas à dormir. Tu fais ça combien de nuits? Ça fait 10 nuits. 10 nuits, Baba. 10 nuits. 10 nuits, tu dors mal. 10 nuits, tu dors mal. Alors, ce que tu constates au niveau de ton couple, ça vaut rien parce que t'es très énervé. Ce que tes enfants, ils s'énervent, c'est normal parce que t'es fatigué. Ce que ta croyance, elle est remise en cause, c'est normal parce que t'es fatigué. Je dis d'abord, va dormir. D'ailleurs, je dis, dors. Tu dors 2 jours. 2 jours complets. Après, on discute. Je vais entendre dans ta voix que t'as dormi. Après. Ah, je vois les choses différemment, je me sens beaucoup mieux. D'abord le rationnel, après l'irrationnel. Maintenant, des fois, c'est beaucoup plus facile de se réfugier dans l'irrationnel que d'assumer les solutions du rationnel. Maintenant, pourquoi toi tu penses au rationnel et l'autre tu penses à l'irrationnel? Parce qu'encore une fois, toi, ça ne t'engage à rien d'avoir du bon sens. Alors que l'autre, le bon sens, ça veut dire qu'il faut y aller, il faut assumer, il faut grandir. Cette logique là, ça veut dire qu'on a compris maintenant pourquoi est-ce qu'on a mis Racha en face de Yachar. Yachar, c'est le contraire de Racha. Et Tam, le contraire de Tam, d'intègre, c'est quoi? C'est Bogel. Pourquoi quelqu'un il se révolte? Oui, parce qu'il n'arrive pas à accepter. Maintenant, le bon Dieu il va t'envoyer des choses que tu peux comprendre et des choses que tu ne peux pas comprendre. Des fois, il faut utiliser la force de la compréhension, il faut bien réfléchir. Des fois, il faut apprendre la force de l'incompréhension. Je ne comprends pas et je vais bien. Tu veux parler avec ton mari? Maintenant, il est énervé. Tu dis, mais je t'aime, tu sais, on va parler tout à l'heure. Mais maintenant, je sais que c'est pas le moment. Et tu dis, non, je veux parler maintenant, je veux parler maintenant. Et bien, j'en peux plus, casse-toi! Pourquoi on est arrivé là? C'était pas le moment. C'est rien, c'est un truc idiot, c'est pas le moment. C'est quand le client t'appelle et c'est le Shabbat dans 5 minutes. Là, j'aurais ma téléphonie. J'arrivais plus à vous avoir, je veux vous parler. J'ai écouté madame, il est 4h, Shabbat rentre à 4h15, je n'ai pas pris la douche, je vais prendre une douche. Elle m'a dit, mais c'est un cas de j'ai vraiment besoin de vous parler. Je lui ai dit, mais je vais prendre une douche, c'est Shabbat. Mais elle ne comprend pas, parce qu'elle a 9 heures de décalage. Donc c'est tôt le matin pour elle. Donc moi, je dois faire avec mes circonstances. Ouais. Si maintenant je dois m'occuper de mes enfants, elle me téléphone. Je vous ai appelé au mauvais moment. Ah, mais j'arrive pas à vous joindre, il faudra appeler demain. Ah, mais demain, j'ai pas le temps, je travaille. Je dis, c'est votre travail, il va vous coûter un divorce. Mais moi, j'ai mes enfants maintenant. Maintenant, je m'occupe de mes enfants. Je ne vais pas m'occuper de vous. Les gens, ils ne comprennent pas des fois. Ça s'appelle l'échelle des priorités. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas fixé les priorités, il n'y a plus de priorité. Le jour, j'étais à Ramana. Ouais. Vendredi dernier. Un petit Shalom Bayit comme ça, sympathique. C'est pour bien démarrer le matin. Hein. Tu prends un petit coup pendant 3 heures. Alors, bon, ils viennent, alors, lui travaille, je ne sais pas quoi, il est ingénieur, biotechnique, d'Irkbabik, et elle aussi, bon, ils ont des enfants et tout. On commence à parler et tout. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu reproches, toi? Il m'a dit, je trouve que j'ai beaucoup de menaces, j'ai beaucoup de stress dans le travail, et je trouve que ma femme, elle n'est pas là pour me soutenir, pour me donner les forces. Je lui dis, attends, on arrête tout là. Je fais ça et c'est fini, j'ai compris votre problème. Il me dit, c'est quoi? Mais c'est très simple. Je fais, toi, vous avez fait l'Alia? Il m'a dit, oui. Quand ça? Le 7e jour des chèvres en compte. Ah. Donc, tu t'es marié, 7e jour de chez rencontre, Alia. Tout de suite, qu'est-ce que ça fait? Tu as commencé à bosser. C'est dur de travailler en Israël. Ouais. Il fallait construire le couple, il fallait construire ta société, il fallait faire l'intégration en Israël. Automatiquement, tu as sacrifié quelque chose. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Ton couple. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu dis, toi? Il me dit, mais d'où vous savez? Je lui dis, regarde, écoute-toi parler. Tu as dit, moi, j'ai des grandes pressions au travail et je trouve que ma femme, elle ne me donne pas assez de force. Ça veut dire que ta vie, elle est au travail et ta femme, elle est accessoire des forces que tu as besoin pour le travail. C'est le contraire normalement. Normalement, ton axe, il est à la maison, ouais, et le travail te nourrit pour pouvoir amener ce qu'il y a besoin à la maison. Mais c'est la maison. Est-ce que c'est la maison qui est l'axe et le travail tourne autour, ou c'est le travail qui est l'axe et ta femme elle tourne autour? Après, il dit, c'est normal que je trouve qu'elle a grossi, je trouve que je ne ressens pas les choses. C'est normal, mais ton axe, il est là-bas. Donc toute ton excitation, ta éclaboussure, ton enthousiasme, ta joie, ta passion, elle est dans le travail. Et ici, tu n'as plus de force, il n'y a plus rien. C'est rien du tout. C'est juste qu'au départ, ton axe, il n'était pas fixé. Un truc idiot. C'est rien de grave. Mais sur 10 ans, ça s'appelle la routine, ça s'appelle le manque de dialogue, ça s'appelle que le courant ne passe plus. C'est normal. C'est au départ. C'est comme si l'enfant il a faim et tu mets la cuillère à côté de la bouche. Là, tiens, et lui, ah, ah, il crève à mourir de faim. Tu lui as rempli les deux oreilles, tu lui as rempli les cheveux, mais il a faim. C'est là, faut le mettre dans la bouche. C'est normal. Ouais, le fournisseur il attend que tu payes et toi tu lui dis, renvoie-moi la marchandise, grâce à Dieu ça marche bien. Je dis, bah, paye. Paye déjà les trois premières commandes que tu as payées. On est déjà à 600 000 euros, je t'envoie encore. Mais c'est pas ça l'argent, c'est pas le problème. C'est compliqué, il faut aller à la banque, il faut faire les virements. Mais envoie la marchandise. Comment je t'envoie, ma voiture de rien. Là, les gens, ils sont nia. Après, il dit, bah, tu sais, j'ai tout dépensé, j'ai acheté un yacht à ma femme. Et le fournisseur, il est dans ma mère. D'accord. Donc ici, c'est exactement pareil. Que la personne, en fin de compte, simplement. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est quand finalement, le plus important, ça ne se voit pas. C'est l'axe. Le plus important, c'est invisible. Le plus fondamental, ce qui va te maintenir et ce qui va te sauver, ça ne se voit pas. L'essentiel ne se voit pas. C'est compliqué. Le superficiel, ça se voit. Ça saute aux yeux, tout de suite ça revient, tout de suite ça te remet en cause. Mais le principal, ça ne se voit pas. Et c'est ça toute l'épreuve. C'est qu'un homme, il doit réussir à tout le temps garder l'axe. Ouais. Maintenant, je suis venu pour parler avec mon fils. Maintenant, ça se passe mal. Il est en train de crier. Maintenant, il m'a manqué de respect. Maintenant, je vais le frapper. Je dis, non. Moi, j'étais venu pour parler. Si tu gardes ton axe, tu ne vas pas tomber dans le piège. Si tu perds ton axe. Donc, un homme toute sa vie. Quoi ? L'autre jour, il y avait un rav. C'était dans un mariage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un barreau pour faire un petit peu amuser le rabbin de la Kala. Il a mis une bouteille sur sa tête. Vous savez, ils font ça, ouais. Il met une bouteille sur la tête et il fait ta. Et les trucs, et pour pas tomber, c'est pas évident de pas tomber. Alors il y avait deux raves, un côté de l'autre. Alors il a dit, t'as vu quand même, c'est une croix. Ah, comment il arrive à. Il a dit, mais ça, n'importe quel enfant de 13 ans, il sait faire ça. Il dit, ah bon, comment? Il a dit, mais comment il fait? Il fait attention de pas oublier qu'il a une bouteille sur la tête. Un enfant de 13 ans, il fait, il n'oublie jamais qu'il a l'été fini sur la tête. Tu oublies qu'elle était finie. C'est pareil. Maintenant que tu jongles avec les téfilines, que tu jongles avec ton honnêteté, que tu jongles avec ton mariage, mais toute la vie, c'est ça, c'est la conscience. C'est la maturité. C'est ça, Eret. Alors l'autre, il arrive grâce à Dieu. Il arrive à apporter beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'il a développé une qualité qui est très, très forte. Il dit, cette intégrité-là, tu la développes, elle te coûte au niveau de ton développement, et en même temps, c'est elle qui te permet de traverser toutes les étapes. Toutes les étapes de la vie, en fin de compte, c'est comme ça. Mais malheureusement, je te dis, il faut développer les deux. Parce que des fois, on te demande d'être très très intelligent, c'est des calculs, c'est des riches bonnes notes. Ouais. Et des fois, on te demande la tmimout. Tu fermes ton cerveau, tu dis bon. L'autre, tu sens qu'il n'est pas bien. Ça tourne mal là. Il est en train de se vexer. Il va se mettre en colère, il va crier. Tu dis, moi, je fais comme si tu n'as pas compris. Ah, pourquoi? Pourquoi je ne vais pas réagir? Pourquoi? Non. C'est mon frère, c'est mon beau-frère, c'est mon beau-père. Et là, il a dit un mot de trop. Je dis, genre, j'ai pas entendu. Pourquoi je vais faire de la surenchère et on va rentrer dans la guerre et tu vas trouver cette mida. Ouais. L'autre il t'a planté. Tout de suite. Il t'a planté tout de suite. Ouais, c'est de la famille. Allez, c'est pas grave. Chica par là, c'est pas grave. Ah non, c'est pas comme ça. Il faut que ça passe. Donc quoi tu pars là? Où tu pars là? Tu pars dans la haine? Tu pars dans la rancune? Tu pars, oh, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Donc tu es capable toi d'avoir cette mimou de dire, c'est mimou. Le jour, ma femme, elle me dit, merci, on est trop gentil. C'est comment les gens, ils sont durs. Et comment ils te font payer, et comment ils cherchent, et comment ils font des études, ils font des enquêtes pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et nous, on a confiance. Je dis, on a cette tranquillité. Les gens qui sont des baltarboulottes, ils font des rejouanottes, ils font des comptes. Ils font tellement de comptes, je vais lui dire ça comme ça, elle va croire ça. Après, l'autre, elle va penser comme ça, parce que si elle me voit comme ça, si elle me voit habillée comme ça, elle va penser comme ça. Mais pendant les vacances, elle va penser comme ça, si elle me rencontre là-bas, si elle me dit, oh, je lui dirai comme ça, je me mentirai comme ça. Ils font tellement de comptes que même plus ils se perdent dans les comptes. Toi, tu dis, je suis comme je suis, voilà, j'aime ça, je suis comme ça, je vous dis ce que je pense, voilà, je vous dis comme je le ressens. Ah, mais on peut faire mieux. Ben, pour l'instant, c'est ce que je peux vous faire. C'est bien. Ça s'appelle la tmimout. C'est une attitude. Maintenant, on te demande d'un côté de développer une grande capacité intellectuelle, et de l'autre côté, une grande capacité d'intégrité et d'être à 100% dans ce que tu fais, sans réfléchir. Après, c'est quoi? C'est la chorma, ça devient quand est-ce qu'il faut utiliser ça, quand est-ce qu'il faut utiliser ça. Maintenant, si tu réfléchis quand il faut accepter, tu vas te révolter. Et si tu acceptes quand il faut réfléchir, tu vas faire des bêtises. ça la bina. Que quelqu'un il est capable de s'adapter à la situation. Alors si c'est ça, donc on a dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yaakov Avinu ces deux qualités et qu'il les contient à l'intérieur de lui-même. C'est bon ? Vous êtes bien là ? Je crois qu'on a commencé un petit peu en retard. Donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit que, en fin de compte, toute l'idée, c'est qu'on va aborder une réalité. Cette réalité, c'est ce qu'Hachem nous propose. On a dit, celui qui nous propose cette réalité, c'est l'agent véhicule de la réalité, on l'appelle le Yetzer Hara. D'accord ? Maintenant, on peut l'appeler les circonstances, on peut l'appeler la mise à l'épreuve, on peut l'appeler le terrain de fragilité, on peut l'appeler le tremplin de l'existence. Appelle-le comme tu veux, ça ne change rien. C'est l'un des situations qui est proposée. Maintenant, j'ai déjà expliqué plusieurs fois que le Yetzer Hara, il s'appelle Chaser, il s'appelle le manque. Le Chet, le mot Chet, il veut dire faute, mais il veut dire aussi Chisaron, il veut dire aussi le manque. Le Geinam, l'enfer, ouais, dans les livres de Moussa, on l'appelle Olam HaChisaron, le monde du manque. Pourquoi c'est comme ça? En vérité, on a dit, un homme, il a un Yetzer Hara en lui, et ça correspond à quoi? Ça correspond à ses manques. Mais dans les manques, il génère les peurs, il génère l'instabilité. Le contraire du manque, le contraire de Chaser, c'est Shalem. Maintenant, il y a un autre mot pour dire Shalem. Shalem, ça veut dire complet. Il y a un autre mot pour dire Shalem, c'est Tam. Quand quelqu'un est Tam, on dit qu'il est Shalem. C'est comme par exemple, on dit Torah Tenima. La Torah Tenima, la Torah, elle est Tenima. C'est-à-dire quoi Tenima? Ouais, c'est pas qu'elle est, elle est intègre, la Torah, c'est qu'elle est complète. Ça veut dire que la Torah, tu ne peux l'apercevoir que dans son entité globale. Parce qu'il y a des éléments qui sont interactifs les uns avec les autres perpétuellement. Donc tu es obligé de prendre toute la Torah. Si tu enlèves un morceau de la Torah, tu ne comprends plus rien. Mais tes questions viennent du fait que tu ne l'acceptes pas dans ta globalité, parce qu'il y a une qui répond à l'autre, une partie qui répond à l'autre. Alors c'est pareil maintenant. Tamim, quand quelqu'un est tam, ouais, ça veut dire qu'il est complet. Le contraire de tam, c'est chaser. Maintenant, intègre, c'est que quelqu'un il est à 100%. On a dit que le chaser, c'est le Yetzer Hara, ouais, et que le représentant du Yetzer Hara dans le monde, c'est Amalek. Et Amalek, c'est la valeur numérique de Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc le Yetzer Hara, c'est le chaser et c'est le doute. C'est bon ? Le contraire du doute, c'est la tmimout. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose le Yetzer Hara, le doute ? Qu'est-ce que tu lui réponds, la tmimout ? Si quelqu'un n'a pas développé la force de la tmimout, de l'intégrité, il va être emporté par le doute. Maintenant, le doute, ça tue. Le doute, ça tue. Tu sais que c'est ton argent, c'est ton argent. Tu sais que c'est son argent, c'est son argent. Tu sais pas si c'est son argent ou ton argent, tu vas devenir fou. Tu deviens fou. Ouais. Tu sais pas. Elle a un comportement bizarre. Elle est ni fidèle, ni infidèle. Ouais. Tu trouves des textos, tu dis, c'est quoi ces textos? Ah, on rigole entre copines. Je peux plus. Je te vois comment tu rigoles avec les gens. Je peux plus, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Où t'étais? Ah, j'ai pas besoin de te dire. Mais pourquoi tu coupes ton téléphone quand tu vas le voir? C'est le doute. Ouais, le doute, ça tue. Le safek, il tue. Il dit pourquoi? Parce que c'est Amalek. Et c'est Yetzer Hara. Et c'est le manque. Maintenant, le manque qui existe en toi, on appelle Yetzer Hara. Le manque qui est en face de toi, on appelle le chet. C'est quoi la faute? Les gens, ils croient la faute. Non, la faute, c'est très simple. La faute, c'est un manque que tu as créé dans ta vie. Parce que pendant que tu es en train de fauter, ouais, tu n'es pas dans un acte de maturité. Comment on appelle la maturité? Le da'at. Et comment on appelle la faute? Essiyah da'at. Tu dis, j'étais inconscient. Ouachtou, j'ai pas réfléchi. Maintenant, le problème, c'est que tous les moments que tu n'as pas vécu en maturité, ces moments n'ont pas été vécus. Ça va? Tous les moments que je ne vis pas en tant que maturité. C'est-à-dire que je n'ai pas un rapport de conscience avec l'événement. D'accord? Je n'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte, je ne pensais pas que c'était si grave, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, j'étais hors de moi, ça me dépasse. Tous ces langages-là qui expriment le fait que je ne suis pas en rapport avec ma réalité, quel que soit le prétexte, nous on appelle ça Yetzer Hara, l'autre il appelle ça l'inconscience, il appelle ça l'immaturité, il appelle ça l'incapacité à assumer sa réalité, on s'en fiche des mots, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que ces moments-là n'ont pas été vécus. Comme ils n'ont pas été vécus, c'est ça leur faute, ouais. Donc ils sont chasser, c'est chisaron, bahaïm, ils manquent dans la vie. Parce que la vie, c'est le cumul de tous les moments vécus. Maintenant, si je soustrais tous les moments où tu n'étais pas présent, il reste que les moments que tu as vécus. Ça va? C'est bon? Donc tu vois que la faute, elle s'appelle Chisaron, mais Chisaron de vie. C'est pour ça que c'est marqué que la faute, elle tue. Les gens, ils croient que la faute, elle tue parce que tu vas être puni pour la faute. Mais non, la faute en elle-même, c'est déjà une punition, puisque tu n'as pas vécu le temps de la faute. Parce que toi-même, tu regrettes ce temps-là. Donc tu l'as déjà soustrait de ta vie. C'est ça que la faute en elle-même, c'est déjà la punition. C'est ça qu'on dit Srar Avera. Avera. La Avera elle-même, c'est déjà la punition. Puisque toi-même, tu dis, j'aurais voulu ne jamais le vivre. Donc tu l'as enlevé de ta vie. Et ça, c'est un temps qu'on t'a enlevé, puisque le temps, il est passé là-bas. Donc réfléchis. Le Yetzirah, c'est le manque à l'intérieur de toi. La faute, c'est le manque à l'extérieur de toi. Maintenant, le cumul des manques que tu as cumulés en toi, ouais, comment il va être ressenti après ta mort? Pas de guéna. C'est quoi l'enfer? Je crois que les gens, ils croient que l'enfer, c'est des braises, et des chalumeaux, et des fours à micro-ondes, et des... Non, c'est tes manques. Tu viens avec tes manques. Maintenant, quand tu viens avec tes manques dans un endroit où tu ne peux plus les combler, un type qui fume, il arrive dans un endroit, il est bloqué pour 68 heures et il n'y a pas de cigarette. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ça va être l'enfer. C'est l'enfer. Maintenant, celui-là, il est dépendant du kavod. Celui-là, il est dépendant de l'argent. Celui-là, il est dépendant qu'on fait sa volonté. Celui-là, il va mourir. Donc, celui qui veut mesurer la nature de son Gehinam après sa mort, il suffit qu'il connaisse le niveau d'intensité de sa gestion des manques. Comment il gère ses manques. C'est pour ça qu'on dit qu'à la Karatan, celui qui est coléreux, Kol Mine Gehinam Sholkimbo. Il y a toutes sortes d'enfers. Pourquoi? Parce que lui, tout ce qui l'énerve l'empêche d'exister. Donc, comme il y a beaucoup de choses qui l'énervent, donc il va avoir beaucoup d'enfer, déjà dans ce monde-ci. Parce qu'il n'est pas adapté, il n'accepte pas. Or ça, c'est généré par son Yetzirah. Donc regarde la linéarité, le manque de à l'intérieur de la personne, le manque dans la faute, et le manque à la fin dans le Gehinam. C'est pour ça que le Yetzirah, il s'appelle Yetzirah, Satan Malach HaMavet. Le Yetzirah, il est à l'intérieur de toi, le Satan, il est à l'extérieur de toi, c'est la faute. Et la fin, c'est l'ange de la mort. Ça va? Maintenant, si ces trois entités sont les mêmes, et que le contraire de ça, c'est Tmimout. Tmimout à l'intérieur, Tmimout à l'extérieur, Tmimout après. Maintenant, si toi, tu es Tam à l'intérieur, c'est quoi Tam à l'intérieur? C'est qu'à l'intérieur de toi-même, tes valeurs, elles sont claires. Ta relation avec ta conscience, elle est 100%. Ta relation avec Dieu, elle est 100%. Ça s'appelle Tamim, Tiyé, Im, Hachem, Elokecha. Tu es intègre, tu es construit à l'intérieur. Après, dans ton vécu, tu es tard, ça veut dire quoi? Tu fais des actions qui sont propres. Ouais, le magasin, c'est honnête. La relation avec l'autre, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand tu dis quelque chose, c'est émettre. Quand tu t'engages, tu finalises. Quand tu construis ces trucs, quand tu fais quelque chose, tu le termines bien. Tout est tard. Tu es tard dans tes actions. Tu es complet dans tes actions. Tu es complet dans tes paroles. Tu es complet dans tes relations. Ton couple, il n'y a pas d'ambiguïté. Tes enfants, il n'y a pas d'ambiguïté. Chaque chose, c'est tard. Donc tu es tard à l'intérieur, tard à l'extérieur. Celui qui est tam à l'intérieur, tam à l'extérieur, à la fin, comment il va être? Il va être tam. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu récoltes la tmimout que tu as créée chez toi. Puisque la punition du Gehinam, c'est quoi? C'est la chisaron. C'est la frustration de ce que tu n'avais pas. Donc si toi, tu as atteint la tmimout, donc il n'y a pas de souffrance. C'est ça le Olam Haba. Pour ça qu'on dit que quelqu'un bar Olam Hazé ou ben Olam Haba. Dans ce monde-ci, il est déjà Ben Olam Haba. C'est-à-dire quoi? Il est déjà apte au monde futur. Dans ce monde-ci, avant d'arriver là-haut. Alors, il y a une Gemara incroyable. Elle dit, les tzadikim, ils ressemblent à un arbre qui est planté dans un endroit de pureté, mais dont le feuillage tend dans un endroit d'impureté. Ça va? Quand tu coupes le feuillage, ouais, tout est dans un endroit de pureté. Il dit le Rechaim, c'est le contraire. C'est comme un arbre qui est planté dans un endroit d'impureté, mais dont le feuillage tend dans un endroit de pureté. Quand tu coupes, il est entièrement dans un endroit d'impureté. Ça va? Maintenant, c'est quoi l'arbre? C'est l'essence de la personne, c'est le centre de la personne. Le tzadik, même Bar Olam Hazé, oui, bien qu'il est obligé de vivre dans l'impureté, c'est-à-dire il est obligé de vivre par rapport à la matérialité, par rapport à la temporalité, par rapport aux nerfs, par rapport aux choses. Ça, c'est que le feuillage. Mais le tronc, il est déjà dans la Mabar. Il est enraciné. Ouais, ça s'appelle la Nekia. Ouais, il est déjà enraciné. Baolam Haba, Baolam Hazeh, il est déjà Baolam Haba. Parce que son fondamental, c'est quoi? C'est sa religion. Son fondamental, c'est son honnêteté. Son fondamental, c'est sa kedusha. Son fondamental, c'est son mariage. Son fondamental, c'est ses enfants. Donc son tronc, il est Baolam Haba. Son feuillage, il est Baolam Hazeh. Tu coupes le feuillage, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Baolam Haba. Par contre, l'autre, c'est le contraire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la bouffe. Ce qui l'intéresse, c'est le fric. Ce qui l'intéresse, c'est les embrouillés. Ce qui l'intéresse, c'est les mensurations de l'autre. Alors lui, il est kolkulo bimkom tuma. Mais il est noté bimkom tahara. Son feuillage, quand même, il va à la synagogue. Quand même, il a quand même des amis. Il fait un peu d'azdaka. Il fait un peu. Il est rien que noté. Mais où est son essence? Ça va? Quand tu coupes, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que. Il n'est pas au là-bas. Il est comme Touma. Maintenant, ça, nous, on ne peut pas le faire par rapport aux autres. C'est-à-dire, moi, je vais réfléchir, je vais dire, ah, bah, au Hachem, celui-là, c'est un tzadik, celui-là, c'est un rachat. Parce que tu ne peux jamais savoir. Il y a des grands rachaïm avec des belles barbes, et des grands tzadikim qui n'ont même pas la kippa. Donc, c'est très, très compliqué de savoir. Par contre, chacun, il peut savoir pour lui. Chacun, il peut se poser la question pour lui. Où il est le principal, où il est. Maintenant, quand quelqu'un, il a défini que par rapport au principal de la Torah, il colle avec ce principal, il sait déjà s'il est ben ou la baba. Comme ça, ils disent les commentaires. Chacun, il sait s'il va au monde futur. Parce qu'on dit, on sait jamais, on ne peut pas savoir. Mais c'est quoi le principal pour toi? Il y a un rabbi, il avait dit, tu t'allonges sur un lit, tu restes une demi-heure, tu te vises la tête, tu te vises la tête, tu te vises, tu penses à rien, tu penses à rien, tu penses à rien, tu penses à rien. Et après, tu regardes la première pulsion qui vient. Tu veux manger, tu veux étudier, tu veux regarder un film, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est dur, et si j'ai une mauvaise surprise, il vaut mieux le savoir avant, comme ça tu peux réparer. Comme un enfant, tu dis le prof, le truc, et tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler, je vais t'aider. Tu veux glander, tu veux des vacances, qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer 4 heures au foot et faire 1 heure de maths, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire une demi-heure de Mishnah et 3 heures de gymnastique, qu'est-ce que tu veux? On va trouver une solution, on va parler avec toi, mais il faut d'abord qu'on décide où est-ce qu'il est planté ton arbre. Mais si quand tu es là-bas, tu regrettes là-bas. Quand tu es là-bas, tu regrettes là-bas. C'est nulle part. C'est nir, c'est des naïdés. Alors, il n'y a rien pour toi. C'est pour ça que quand Adam Harishon, il a fauté, ouais, il y a un langage incroyable. On dit, la faute d'Adam Harishon s'appelle Kotsetz Benetiot. Il a coupé Netiot. C'est quoi Netia? C'est l'enracinement. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est plus lié à la racine. Il dit ça, un homme, il doit faire ce travail. Et c'est ça l'intégrité. C'est qu'au fur et à mesure qu'on va faire des choses, on va étudier beaucoup de Torah, on va travailler notre couple, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut le faire pour enraciner les choses, pour donner une réalité forte aux choses, qui soit vraiment notre repère à nous. Pourquoi? Parce que c'est cet enracinement qui permet de traverser. Parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des souffrances, il y aura des divorces, il y aura des déceptions, il y aura des pertes d'argent, il y aura des pertes de santé. C'est seulement ça. Si les racines, elles sont fortes, après on peut traverser n'importe quoi. Si on a oublié de faire les racines parce qu'on était tellement occupé à faire le décor qu'on a oublié de faire le principal, bah quand il n'y a pas de racines, t'as vu les maisons quand il n'y a pas de... quand il y a des tsunamis, les gens ils sont emportés. Maintenant nous on sait que la fin des temps c'est marqué Adam ou Be'ema Toshi Hashem. L'homme et l'animal, Hashem il va sauver à la fin des temps. Ouais. Bon, dans la Géoula, un des principes fondamentaux de la Géoula, c'est la Emouna. Or, le terrain d'application de la Emouna, c'est le balagan. Le trouble. Maintenant, chacun, il voit autour de lui que la politique, elle saute en l'air, que l'économie, elle saute en l'air, que les vieux rabbinim, ils meurent, ouais, que les religieux, ils font des trucs, que les non-religieux, ils font des trucs, on ne sait plus où on est la tête, c'est le balagan. Oui. Donc si le balagan il s'installe, ça veut dire que l'épreuve du balagan elle va venir, c'est la Emouna. Maintenant Adam ou Behemat Oshia, Hachem il dit je vais sauver l'homme et l'animal. Maintenant qu'est-ce qu'on a à faire que Hachem il va sauver les animaux? Tu crois que les vaches elles attendent le Mashiach? Il dit non, pourquoi? Parce que, il dit c'est quoi Adam ou Behemat Oshia? C'est que le bœuf, quand tu lui traces un sillon, il suit le sillon. Maintenant des fois le sillon il traverse un rocher, il traverse le rocher. Des fois, les sillons traversent la route, ils traversent la route. Des fois, les sillons traversent la rivière. Des fois, ils traversent le mur, ils traversent le mur. C'est pareil. Il dit Adam, il dit c'est quoi? Elou, c'est qui Adam ou Behema? c'est que des fois un homme, il doit se conduire comme un homme, avec tout le sechel qu'il faut, avec toute l'intelligence qu'il faut, et des fois il doit être comme une béhéma. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont traversé le camp de la mort, c'est comme ça qu'ils ont traversé la maladie, c'est comme ça qu'ils ont traversé les pogroms, c'est comme ça qu'ils ont traversé l'inquisition, parce qu'ils avaient cette mimoute pour sortir d'Auschwitz et de dire je vais fonder une famille. Oui. Et le contraire. Il y en a, ils ont raté le bac, ils ont dit Dieu n'existe pas. Tu dis, mais à cause du bac, tu remets tout en cause, parce que tu as une déception sentimentale, tu es rentré 8 ans en dépression. Donc la question, c'est pas quelle est la gravité de la déception, c'était quelle profondeur elles étaient tes racines. Tu comprends, tu n'as pas de famille, tu n'as pas des frères, tu n'as pas des sœurs, tu n'as pas la croyance, tu n'as pas les mounas, tu n'as pas la joie de vivre, tu n'as rien. Qu'une déception sentimentale, 7 ans de dépression. Donc c'est pas la force de la tempête. Oui, c'est la profondeur des racines. Maintenant, les tempêtes, ce sont les événements. Tu n'es pas maître des événements que Dieu va t'envoyer. Mais par contre, l'impact des événements chez toi, ça c'est toi qui décides. Si tu t'es construit, si tu t'es renforcé, si les choses elles sont claires, si ce que tu as appris, tu l'es devenu, si tu as trop fini ton travail, pas seulement pour gagner de l'argent, pour acquérir l'honnêteté, si tu as profité de ta famille pour acquérir la solidarité, si tu as profité de tes enfants pour voir les merveilles de la bonté d'Hachem. Alors maintenant, c'est vrai que tu as fait des choses, tu as fait une famille, tu as fait de l'argent, mais à part ça, tu es devenu solide. Alors maintenant, ils peuvent venir les ouragans. Mais si tu as fait tout comme une machine, parce que tu étais occupé par les détails de l'extérieur, et que tu n'as pas travaillé le fondamental, alors dès qu'il y a un tsunami, et le Mashiach, ça va être le tsunami, mais pas forcément avec les souffrances et les morts. Vous savez, un tsunami spirituel, c'est aussi un tsunami. Comprenez ou non ? Si les gens ils vont se mettre à fumer du shit dans les chivotes et qui vont, tu vas dire, et si les filles de séminaire elles commencent à sortir en boîte, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire mais ça se fait pas. On va dire mais c'est comme ça. Maintenant on a envie, voilà. Maintenant quand je veux faire un chidour, je vais sur Facebook. Tu dis mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il va te dire mais il faut vivre avec son temps. Ça c'est un tsunami ça. Mais à l'intérieur. Tant que le goy il est dans la folie, tu dis on s'en fiche. Mais quand la folie elle rentre dans la religion, on va devenir fou. T'as compris ou non? Voilà, donc Hachem nous aide, toi Hachem, à traverser tous les tsunamis de la vie grâce à l'intégrité qu'on aura travaillé. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Le prochain cours c'est quand?
Le 12 décembre.
Le 12 décembre.
La vraie victoire.
Ouh là là, la vraie victoire. Donc je ne savais pas qu'il y avait une guerre, mais en tout cas la victoire c'est sûr qu'on va la gagner. Le cours est dédié pour la réfoua chez de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Simcha Batzlecha, pour Meir Ben Chimi, pour Rabbi Yashiv, Rina Bat Eliza,
Esther
Miriam Bat Bat Elisheva, Amen, Sharon,
Shaul,
Rachel Batrida.
Amen.
Rina Rachel Batrida.
Amen.
Amen. Dis Amen. Avraham Ben Asmira.
Amen.
Avraham Ben Esmeralda.